Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Effectivement, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous pour le dernier Paris Sport de l'année 2022, naturellement. Eh bien, on va revenir sur cette finale de Coupe du Monde perdue par l'équipe de France contre l'Argentine. On parlera aussi des demi-finales et puis on fera un petit peu le bilan de cette édition 2022 de la Coupe du Monde avec ceux qui nous entourent. Hein. On va saluer ceux qui ont déjà commenté le match hier. Je leur demandais dans quel état sont-ils. Est-ce qu'ils ont bien récupéré? Est-ce qu'ils ont passé une bonne nuit? Je vais donc saluer mon ami Eladji. Ça va, Eladji?
Salut Philippe.
As-tu bien dormi?
J'ai connu des meilleures nuits, on
voilà,
va dire.
Je suis content parce que moi, j'ai eu du mal à m'endormir aussi.
Hein. Moi, j'ai eu du mal à dormir. Hein. Ouais. La nuit a été très virulente. Quoi,
ouais,
du
coup, très bien. Okay.
Il y a eu beaucoup de turbulences.
Ouais. Lui, je sais qu'il a bien dormi, c'est à bout.
Comme un bébé.
Ouais, ouais.
Bonsoir.
Ah non, tes émotions.
Mais, oui, non, mais moi, en fait, je vous explique. Je suis né en 2000. J'ai connu l'équipe de France qui remporte. Ouais. Enfin, moi, pour moi, l'équipe de France, c'est une équipe glorieuse. 2006, on perd en finale, mais c'est pas grave. 2018, on remporte la compétition. Il y a l'époque Benzema, Mbappé. Là, il y a une génération qui arrive, mais c'est juste formidable. On va en remporter des titres. Faut pas être triste, messieurs. Faut pas être triste.
Très bien, on va saluer Malik qui nous a accompagné pour
la Coupe du Monde. Salut Philippe, comment ça va?
Ça va. T'as bien dormi toi?
On va dire que j'ai la digestion facile moi, dans les victoires comme dans les défaites.
Très bien, et puis on va saluer aussi Julien qui nous a accompagné pendant donc tous les lundis pendant ce mondial de foot. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va? Comment t'as vécu cette finale toi, de Coupe du Monde et cette défaite de l'équipe de France?
Comme tout le monde, on a eu un peu mal au crâne après la fin du match, mais personnellement j'ai bien dormi, ça va. La bière a fait son effet.
Voilà, alors on fera un petit coucou aussi à Stéphane.
Hein, à consommer avec modération.
Ouais, qui finit le mondial avec un petit Covid, mais enfin il interviendra donc par téléphone. Et puis on devait avoir notre ami Eric, mais je ne sais pas. On l'attend d'un moment à l'autre. Peut-être a-t-il un empêchement. Puis on va saluer aussi Noël Tosi, hein, qui a été avec nous pendant tout ce mondial. Et puis Noël, il est parti donc remplir sa fonction d'éducateur de foot aux USA. Donc on le salue bien fort. Il nous remercie. Ça a été un plaisir pour lui donc, de travailler avec nous. Et puis on l'aura sur tous les autres prochains grands événements de foot. Alors, on va revenir donc sur cette semaine de foot. D'abord, avant d'aborder la finale, je voudrais qu'on revienne sur les demi-finales. L'Argentine qui bat la Croatie 3-0 et la France qui s'impose devant le Maroc 2-0. Vous en avez pensé quoi de ces matchs? Je crois que tu avais mis la Croatie, non?
La Croatie, j'ai pas mis la Croatie, mais je m'attendais quand même à un meilleur match de leur part. L'Argentine a fait un match très costaud et je pense que
largement supérieur offensivement ce jour-là.
Il y avait une grosse différence entre les deux. Pour la France, ça a été plus compliqué. Hein. On a eu un match âpre, difficile, mais un peu comme les tours précédents, on a su être efficace quand il fallait.
Bah, c'est-à-dire que Deschamps n'est pas tombé dans le piège des Espagnols et des Portugais, il a su déjouer le système tactique, même s'il a fallu attendre la fin de match avec Colomani pour véritablement se libérer.
Je ne sais pas s'il n'est pas tombé dans le piège, je pense que c'est facilité aussi par le but rapide. Ouais. Sinon, on a peut-être un tout autre match qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé avant. Mais oui, l'engagement en début de match a été très important et bon, derrière on tient malgré les occasions, on a un super Lloris aussi, faut le noter aussi. On a de la réussite parce que c'était un match quand même assez partagé et on était quand même très satisfait de pouvoir passer après ce match.
Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux demi-finales? Mali, tu t'attendais à un France-Argentine?
Non. Je m'attendais à voir la France en finale, mais l'Argentine non. Et puis, même aujourd'hui, ils sont champions, mais moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette équipe. Je le disais depuis, je pense que cette équipe a bénéficié des faveurs arbitrales un peu trop à mon goût. Après, ça n'enlève rien aux qualités de Messi, cela dit. Mais je crois qu'il y a eu 5 pénaltys quand même, 6 pénaltys. Et moi, j'ai pris le temps de regarder ces pénaltys obtenus il y a 2-3 jours. Et là-dedans, je peux en retirer au moins, et quand je dis au moins la moitié, je suis gentil, hein. Même hier, le pénalty d'emblée, je vais dire, c'est juste comment. Après, ça peut se siffler. Ça a été sifflé. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'Argentine a bénéficié quand même des faveurs arbitrales.
Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
Bah moi, contre le Maroc, en tout cas, France-Maroc, moi, je trouve que c'est plutôt une faute tactique. On est sur une faute tactique de Greg Ragui. Il y a ce changement de système où on passe à 5 derrière. T'envoies un peu le message à l'adversaire que t'es frileux. Après, malheureusement pour eux, en plus de ce changement tactique, il y a ce but qui survient rapidement, dès la cinquième minute.
Tant mieux pour nous. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais malheureusement pour eux, en tout cas, t'es cueilli à froid directement. Il y a ce changement de système, plus le but qui arrive vite. Et en plus de ça, tu rajoutes la blessure de Romain Saïs. C'est un début de match en fait catastrophique pour les Marocains, même si ils ont tenu tête. Hein.
Ah oui, ils se sont bien accrochés.
Et qu'on a eu très très peur.
Il avant a fallu faire du coaching avec Colomoigny pour qu'on se libère complètement. Hein.
C'est ça, avant le but de Colomoigny. Et après, Croatie-Argentine, pareil que Julien, j'attendais mieux de la part de la Croatie. Moi, j'ai été vachement déçu par leur match. Après, pareil, hein, l'Argentine, je pense que le penalty, enfin les Croates, je pense que ce penalty qui arrive tôt dans le match, ça les tue et ça les endort et après ça, on les a plus vu exister.
Moi, j'ai un truc à dire par rapport à la Croatie. Si vous avez bien vu, avant le pénalty, il y avait quasiment jeu égal. Hein.
Ils sont même au-dessus.
Bah oui, ils sont même au-dessus.
Ils font dans le camp.
Ils font un très bon début. Mais
le pénalty, quand on a l'impression qu'un pénalty est injustifié et qu'il y a Messi en face, je peux dire que dans les têtes, ça ne se passe pas de la même manière. Donc après, l'Argentine déroule après. Après le pénalty, il n'y a plus de match, il n'y a plus d'opposition en face. Moi, je pense que ça a beaucoup joué dans les têtes croates. Et là-dessus, c'est pour ça que, de façon globale, je disais que j'ai beaucoup, beaucoup de réserves par rapport à cette équipe argentine. Après, elle est championne du monde, on dira bravo. Ben,
hein. Je pense qu'il faut quand même de la réussite dans les compètes, ça en fait partie d'une certaine manière.
Ouais, mais jusqu'à 6 pénaltys, Julien. Hein.
Oui, je suis d'accord, mais on peut remettre en cause l'arbitrage plutôt favorable à la France, que ce soit contre l'Angleterre ou le Maroc, où il y a des pénaltys qui auraient pu siffler contre nous. Donc ça fait partie pour moi de la réussite aussi d'une équipe d'un
autre pays. Hier pendant la finale, je veux dire, il y a pénalty sur Marcus Thuram. Au lieu de siffler ce pénalty, il obtient plutôt un carton jaune.
Ce qui est compliqué, c'est surtout qu'il ne soit pas allé voir la VAR hier sur les différentes situations. Alors que justement,
Zlatan à la place de Marcus Thuram, peut-être, serait resté par terre, de sorte à obliger l'arbitre à interrompre le match à un moment donné pour aller regarder la VAR.
Mais c'est Mbappé, il s'arrête.
Donc il nous a manqué ce petit côté vicelard.
Non, moi, par contre, bon, l'arbitre hier, le reproche que j'ai, c'est qu'il aurait pu y avoir quand même un peu plus de carton pour les Argentins. Il y a eu quand même quelques semelles.
Sur pas mal de situations, c'est vrai, déjà De Paul en début de match, il y a eu des contre-attaques qui ont été cassées sans qu'il y ait de carton, moment-là, c'est des cartons qui sont assez évidents, effectivement. Maintenant, j'ai un peu de mal quand même à remettre ça sur l'arbitrage, notamment sur la finale, parce que pour moi, c'est pas le facteur décisif. On a été vraiment en dessous de tout pendant un bout de temps.
Juste pour finir sur l'arbitrage, sur les deux derniers matchs, moi j'ai l'impression que l'intégrité physique des Français, elle n'est pas protégée. Je suis désolé, Julien a parlé contre le Maroc où l'arbitrage nous était favorable. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il nous est défavorable plus qu'autre chose contre le Maroc. Hein. Il y a des fautes grossières des Marocains qui ne sont pas sifflées. Il y a des cartons qui ne sont pas sortis. Après, il y a cette action.
Il y a Moufane, ça peut.
J'ai revu l'action à froid parce que dans le commentaire à chaud, moi, je voyais le carton jaune pour Moufane.
Il fait bien le boulot. Hein.
Mais à froid, j'ai revu l'action et effectivement, c'est une situation pénalty évidente. C'était Hernandez qui glisse et qui emmène Moufane dans sa chute.
Moi, je disais qu'il y avait pénalty.
Je voyais pénalty.
J'ai cru que je voulais consulter la VAR et je pensais qu'il y avait pénalty. Après, sur le match Maroc-France, je pense que on leur a laissé la possession, ils ont fait des erreurs.
C'était ce qu'il y avait prévu, de ne pas tomber dans le piège des Espagnols et des Portugais.
Parce que juste avant, Regragui le disait bien en conférence de presse, il disait la possession n'apporte pas de points, encore que je sache. Ça ne rapporte pas de but, ça ne rapporte pas de points. Du coup, moi, la possession, vous pouvez l'avoir tant que nous, on gagne le match, tu vois, même que ça soit même au tir au but. Et du coup, là, ça a été la même chose, mais inversement.
Il l'a dit après coup, on s'est fait avoir parce qu'on ne voulait pas justement avoir le ballon. Et Deschamps a bien réussi à nous mettre en difficulté à ce niveau-là.
Surtout que dès la cinquième minute, ils ouvrent le score. Ça leur tape tout de suite sur la nuque. À partir de la cinquième minute, ils sont obligés d'ouvrir un peu plus le jeu. Et ça devient compliqué. Et
ils n'ont plus trop le choix finalement que de le garder, le ballon. Puisqu'il faut aller chercher un score.
C'est ça. Et le problème, c'est que devant, ils n'étaient pas réalistes. Ils n'ont pas été réalistes.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on l'a dit. Il faut le dire, nous, devant l'écran de télé, on a eu un peu peur quand même, les Marocains qui poussaient. Mais l'équipe de France l'a dit, elle, nous, on était sereins.
On avait quand même ce petit côté comme contre l'Angleterre, où on se dit, rien ne peut arriver.
La patte à Dédé, c'est ça ? La patte à Deschamps, mais enfin, cette fois-ci, ça a tourné. C'est vrai.
Plutôt sa chatte. Hein.
Oui.
Essayez d'être poli, disons les termes clairement.
Comme Harry Kane, par exemple. Le pénalty d'Harry Kane qui tire au-dessus, c'est vrai que c'est le petit coup de poule du destin
ça fait partie
qui permet de continuer l'aventure.
Complètement.
Hein ouais.
Après, franchement, excusez-moi, moi je voulais juste revenir un peu sur le match Croatie-Argentine.
Oui.
Moi, j'ai regardé l'intégralité du match, j'ai pas loupé une seconde vraiment. Et franchement, jusqu'au pénalty, il n'y a pas débat. Entre les deux équipes, il n'y a pas débat. La Croatie est largement au-dessus. Il est manche dans tous les
jeux. C'est bien de rappeler ça parce que tu en as beaucoup qui oublient ça. Parce qu'après, derrière tout ça, tu as Messi qui est sur la ligne, qui fait un dribble magistral.
Même Modric, il fait un match extraordinaire.
Le défenseur croate, on retient ça en définitive. Et puis, malgré tout, ça reste l'Argentine. Mais quand on regarde le début du match, je veux dire, ce pénalty qui n'est pas un pénalty pour moi, au contraire, pour moi, il y a faute sur le goal. Pour moi,
Le goal, il sort. Le goal, il sort.
Ça se transforme en pénalty.
Mais bien sûr.
Je peux te dire, ça te coupe.
Oui, mais bien sûr. Attendez. Moi, je comprends pas. Le goal, il sort.
Demi-finale, hein.
Le goal, il sort. Le joueur, il arrive. Le gardien, il est obligé de sortir. Il va pas rester immobile.
Il est obligé de sortir, mais comme il touche pas le ballon.
Oui, mais.
D'accord. L'Argentin enlève le ballon juste avant le contact. Il la touche.
Donc non, mais en fait il ne peut pas s'enlever. Oui, mais moi je parle du moment.
Si on ne le siffle pas, il n'y a pas scandale.
Non, moi je parle.
Non, il n'y a pas scandale. Moi je parle du moment. Sauf que c'est
l'Argentine.
Si. Pour moi,
au niveau de l'Argentine, il y a Messi.
Pour moi, demi-finale Coupe du Monde, excuse-moi. Moi, pour moi, demi-finale Coupe du Monde, il peut avoir scandale en tout cas. C'est vraiment les Croates, ils ne veulent pas rentrer dans ce cas-là, mais il peut avoir scandale. Attendez, le gardien, il est après. Il a eu le temps.
Ils l'ont dit, les Croates.
Voilà, il a eu le temps de taper le ballon. Mais juste après, il y a le gardien, il sortait. Mais il a eu le temps de taper le ballon. C'est pas comme s'il l'a tapé. Et en même temps, lui, il touche le ballon et le gardien ne le touche pas.
Oui,
non,
il
sort, mais il peut pas s'enlever. Au moment où Julian Alvarez, il tape le ballon, est-ce qu'il peut s'enlever? Il peut s'effacer.
C'est pas une Schumacher face à Batiston.
Il ne peut pas s'effacer. Il a essayé de prendre le ballon, il a pas réussi. Mais il ne peut pas s'effacer. Il est quand même dans sa surface. Il ne peut pas s'effacer en dehors du.
Quand il y a deux joueurs qui arrivent l'un face à l'autre, c'est le premier qui touche le ballon.
Et l'arbitre a bien attendu de voir si le ballon rentre ou pas.
Dans ces cas-là, pourquoi le goal croate, il prend pas rouge?
Bah oui. Il prend même pas jaune. Je crois qu'il prend pas jaune.
Pourquoi il prend pas rouge dans
ces cas-là?
Pour moi, il doit prendre jaune.
Non, la logique voudrait qu'il prenne rouge.
Non, parce que
s'il y a faute, qu'il y a pénalty, oui,
je sais pas si la double peine n'existe
pas. Non, mais la fois encore.
Je suis pas sûr. Et puis au-delà de ça, il y a quand même des défenseurs qui sont à côté. Et donc il est
à
pas
côté,
seul.
Mais il est le dernier, en l'occurrence.
Mais je pense que c'est litigieux. Personnellement, je suis pas contre vous parce que je ne l'aurais pas sifflé. Mais je suis pas scandalisé que ça soit sifflé.
Il y a une sortie du gardien. Ça se joue à rien.
Et même si sa volonté, c'est pas de toucher le joueur et qu'il s'arrête et qu'il fait pas un autre mouvement, il sort, il touche pas la balle. Et à partir de là, c'est regrettable, mais c'est comme ça.
Bah, le problème, c'est moi, le réel problème, moi je pensais, c'est ça. En fait, le réel problème de la Croatie, ils ont un jeu de fou. Ils dominent les débats, etc. Et comme on dit souvent, après le premier but, les 5 minutes juste après, c'est les plus déterminantes. Et juste après, l'Argentine, ils ont eu encore une contre-attaque, ils ont puni. Oui, 2-0 à la mi-temps, ils punissent. Et le problème de la Croatie, le réel problème de la Croatie, c'est qu'ils n'ont pas de grands attaquants. Ils ont Kramaric. Kramaric n'est pas, il est pas bon. Il n'est pas bon du tout.
Ils n'ont pas d'attaquants stériles.
Oui, voilà, ils dominent de manière stérile. Ils arrivent vers les cages, mais ils n'arrivent même pas à cadrer les frappes.
Ils sont excellents dans la possession, dans les échanges, mais il n'y a pas d'occasion de but franc.
L'Argentine a été meilleure offensivement, c'est ce qu'a fait.
Voilà, offensivement. Mais sinon, dans le jeu, en tout cas, la Croatie était meilleure dans le jeu.
Et puis, il y a le soupçon de chance aussi, parce que même sur le deuxième but,
il a
deux contre-favorables, etc. Alors, ok, il y va comme un tank, etc. Mais il a de la réussite, énormément de réussite.
Mais après, tout ce qui arrive derrière, effectivement.
Oui, ça découle de la première décision.
Ça découle de la première décision, surtout. Après, quand tu domines dans le jeu, tu te fais battre, tu encaisses des buts, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as l'impression, et puis je pense que déjà dans les têtes même croates, il y avait quand même ce petit soupçon, parce qu'on avait vu des matchs des Argentins antérieurs dans lesquels effectivement on a vu face aux Pays-Bas des pénaltys offerts à l'Argentine, face je crois à l'Arabie Saoudite aussi. Il y a eu pas mal de faits quand même précédents qui ont fait que quand ce pénalty est arrivé, les Croates ils se sont dit inconsciemment ça y est, on est foutu. Et depuis, ils avaient décroché et après derrière, ça a été le rouleau compresseur.
En fait, la problématique, c'est de savoir quelles sont les consignes en termes d'arbitrage sur cette Coupe du Monde, parce qu'on a vu qu'il y a des changements par rapport à d'autres compétitions. Laisser jouer, très peu de cartons rouges. Il y a plein de choses qui ont changé au niveau des arrêts de jeu, etc. Et on n'a pas connaissance justement des nouvelles réglementations, en tout cas de ce qu'a voulu mettre en place la FIFA pour cette Coupe du Monde. Donc c'est difficile d'en débattre aujourd'hui.
On a compris un peu ce qu'ils voulaient mettre en place, c'était avantager l'Argentine pour qu'ils aient la Coupe du Monde.
pense. Voilà. Quand même.
Généralement, non, en tout cas, franchement.
Ça leur aurait pas rapporté grand-chose. Hein.
Pour moi, c'est voir Messi, non. Dernière Coupe du Monde. Non, Messi, pour moi,
c'est un espèce de faux débat dans le sens où les grands clubs, les grandes équipes sont toujours un peu avantagées parce qu'il y a un facteur inconscient. Il y a plein de choses qui rentrent dans le truc.
Il y a tout. C'est pas inconscient. Julien, ce que tu dis, c'est grave.
Non, c'est pas grave.
C'est une réalité.
Non, mais c'est une réalité.
On désigne le vainqueur.
C'est une réalité. Quand le Dynamo Zagreb joue contre le Real Madrid, dans deux situations similaires, le Real aura un pénalty et pas le Dynamo.
Mais c'est grave.
Mais pareil pour le Barça.
C'est pour ça qu'il y a des règles de jeu.
Pour moi, c'est pas quelque chose de conscient. C'est quelque chose qui touche à l'inconscient, à quelque chose qui. À un phénomène où on est. Hein, sans le vouloir, on va donner plus facilement à l'un qu'à l'autre parce qu'il y a une pression différente.
Mais
parce qu'il y a un
ensemble
de
quel moment on décide. Regarde, j'ai pris l'exemple hier sur Marcus Thuram. À quel moment on décide d'appliquer la VAR? Si Marcus Thuram s'appelle Messi hier, tu penses que la VAR va pas rentrer en jeu?
J'aurais dit ça si. Il avait checké la VAR pour d'autres situations. Et là, j'en ai l'impression qu'il a juste pas voulu checker la VAR du match. Et pourtant, il y avait 4-5 situations où il aurait pu.
Il a checké la VAR.
Moi, je vais te dire un truc. La VAR actuellement, elle ne me plaît pas. Parce que justement, c'est injuste parce que c'est la décision de l'arbitre.
L'histoire.
Parfois, c'est le quart qui
mais
va.
Déjà, pour clarifier,
on sait pas trop. Et pour moi, c'est pas.
Pour clarifier
c'est pas
l'histoire de la VAR, il n'y a jamais un arbitre qui décide tout seul d'aller voir la VAR. C'est les gens dans le camion qui lui disent oui ou non, tu vas voir la VAR.
Oui, mais
si dans le camion, ils sont tous ok avec sa décision.
Non,
il n'a pas le droit de lui tout seul.
Alors c'est même pas
voir.
Qu'ils sont tous ok, c'est qu'en fait si la décision n'est
pas contestable
c'est à 100%, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certitude que la décision soit mauvaise pour intervenir.
Elle peut être mauvaise, mais
c'est là que c'est compliqué.
Donc c'est pas l'arbitre qui décide de son propre chef.
Sur le premier penalty par exemple, au ralenti, on a aussi du mal à voir s'il le touche, il le touche pas. Là, les arbitres dans le quart ne peuvent pas dire. Il faut intervenir parce qu'on est sûr qu'il n'a pas été touché.
C'est
donc, on laisse
manifeste.
Sa décision initiale.
C'est ça, c'est pas
et c'est là que c'est compliqué avec la VAR.
Attention, ils ont quand même plusieurs caméras, eux, hein, dans
oui.
le camion. Hein,
oui.
Que nous, on n'a pas forcément.
Mais justement, pour eux, la décision était bonne, ou en tout cas, pas sûr qu'elle soit mauvaise. Donc,
mais en tout cas, c'est pas si leur signale qui prend la décision ou pas d'aller voir la VAR. Faut que ceux qui sont dans le camion lui disent. De faire le geste d'aller voir la VAR.
Et après, la décision finale, c'est l'arbitre qui la prend. Donc
c'est ça, mais c'est pas lui qui décide.
L'Argentine a gagné, Messi a gagné, Messi est très populaire, Messi est un génie.
Non, mais.
Ça renforce le football.
Non, mais il
n'y
a pas eu de grosses erreurs d'arbitrage sur ce mondial.
Non, et puis bon,
des erreurs influentes.
Toutes les équipes qui ont perdu à partir des tours à élimination directe ont eu des situations litigieuses sans son plainte. Et ça se comprend, c'est logique. On aurait été l'Angleterre plutôt que la France, on aurait pu discuter des décisions et on aurait fait un bon débat d'une heure et demie dessus, c'est certain.
Ken qui met le ballon dans les tribunes,
oui.
Après ça c'est...
Le petit coup de réussite de Didier Deschamps jusqu'alors.
Donc ça c'était pour... qui est prolongé à la tête de l'équipe anglaise.
Voilà, c'est ça, on en parlait justement l'autre jour, on se demandait si l'entraîneur anglais allait rester avec cette génération.
Hein. Bah, il va continuer avec son groupe.
Espérons-le.
Je pense que c'est le groupe qui gagne, c'est le groupe qui a dû demander en tout cas ce qu'il reste, vu que c'est eux déjà qui ont milité pour pas qu'il soit viré avant la Coupe du Monde. Et à mon avis, ce sont les mêmes, les cadres, à mon avis, Anderson, Kane, Maguire, qui ont demandé à ce qu'il prolonge l'aventure avec eux. On verra ce que ça donnera en 2024, mais il n'aura pas le droit de se rater en 2024.
Bah, il a quand même des bons résultats jusqu'à présent. On peut penser ce qu'on veut. Effectivement, je ne suis pas un grand fan de ce coach. Mais aujourd'hui, il a quand même fait finale de l'Euro, demi-finale de la Coupe du Monde précédente. La quart, mais bon, contre la France qui est finaliste. Donc, c'est compliqué aussi. Si les joueurs le soutiennent, il n'y a pas de raison d'en
changer. Moi, je suis totalement d'accord avec la décision. Moi, j'aime beaucoup ce coach et je suis totalement d'accord avec la décision. Mais en 2024, il va falloir quand même confirmer. Parce qu'il est là depuis 2016, il y a un moment, il faudra
gagner. Après, ce qu'ils ont mieux et de libre en plus, c'est ça aussi.
Ouais. Non, parce que Julien, c'est vrai que par le passé, on a toujours attendu parler des Anglais comme favoris. Puis, ils sont toujours passés à travers tous les grands rendez-vous. C'est vrai qu'il y a un petit mieux quand même depuis quelques années. Quatrième du mondial, finaliste, même battu chez eux à domicile à l'Euro. Donc, j'espère que cette génération-là, bon, qui sera peut-être reconduite, même si certains disparaîtront. J'espère que cette génération-là ne va pas faire comme les précédentes. Hein.
On
espère,
aucune garantie. Mais, la problématique, c'est surtout mental. Ouais. Parce que finalement, quand on n'arrive pas à chaque compétition à dépasser un certain stade, etc., ça gamberge.
Absolument.
Et il y a une pression monstre. Et c'est là que sur le pénalty de Kane, il y a tout qui se passe dans sa tête. C'est très compliqué. Alors qu'un Français, il a la certitude. On a déjà gagné. On sait qu'on peut le faire. On est fort mentalement là-dessus. On est plus tranquille. eux, malheureusement, ils ont vu des grandes équipes ne pas aller loin, ne pas réussir, surtout, souvent sur des petits détails. Hein, mais
c'est toujours ce qu'on dit, que c'est là que les grandes équipes, elles ont cette petite part de destin.
Et on peut peut-être dire ouais. Deschamps le syndrome du est loser. Un gagnant, ouais. Et justement, non, mais... a le syndrome du gagnant, et à l'inverse, les Anglais, le coach anglais, c'est un loser. Hein, ouais, c'est pas quelqu'un qui a gagné beaucoup de choses dans sa carrière, en tant que footballeur, ni en tant que coach, donc il n'a pas ce petit soupçon en plus.
Mais nous, on est d'une génération où on a connu ça, on jouait mieux que les adversaires, et puis on ne gagnait pas, il y avait toujours ce petit brin de réussite qu'on n'avait pas, un tir sur le poteau qui nous faisait perdre un match.
Alors que, voilà.
Et maintenant, et 98 a débloqué quelque chose.
99, c'est autre chose.
On voit que ça remonte des mauvais souvenirs, non, chez Philippe.
Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un manquement. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ça...
98 ça a déclenché une spirale positive. Absolument. 2006, il y a 2000, il y a 2006. Bon, 2002, ça arrive aussi de se louper dans les grandes lignes. 2006, on va en finale. On est quand même 4 fois finaliste sur les 7 dernières éditions. On a une culture de gagnant.
C'est,
voilà.
C'est pour ça que moi j'ai bien dormi ce soir. Franchement, on se rend pas compte de la sélection qu'on a, messieurs. On a une équipe.
Tu connais les probabilités, tu connais les trucs. Franchement, honnêtement, tu vois, même si c'est loin là maintenant, tu vois la France aller où jusqu'à l'Euro.
L'euro, je pense qu'on va le gagner. 2024, moi je pense qu'on va gagner.
D'accord, moi je te dis, je les vois pas passer les phases de poule.
Ouais, mais c'est possible, tout est possible. Hein. En deux ans, ça change.
Les mecs, non.
C'est compliqué d'avoir ce débat là maintenant.
C'est compliqué.
Parce que là, vous allez trop vite.
Non, mais tout est possible.
Il y a rien aujourd'hui qui peut présager de ce que vous êtes en train de dire dans un sens ou dans l'autre. On peut pas dire les choses comme ça.
Tout est possible.
Voilà, on sait pas si c'est Deschamps, on sait pas si on aura un deuxième Kylian Mbappé. On sait pas, on sait rien.
Ça sera Deschamps.
On en sait rien.
Il y aura juste une surprise, ça sera peut-être Matisse Tell.
Ça bouge très vite.
Oui, ça bouge très vite.
Quand on regarde,
il y a qu'à regarder déjà l'équipe A entre les Kanté, les Pogba, qui blessés, qui sont pas là et qui sont remplacés quasiment à la dernière minute. Et malgré tout, on arrive en finale. Donc aujourd'hui, faire des prévisions sur l'Euro futur qui arrive en Allemagne,
Malik, tu vois le problème, il est où ?
Les Allemands peuvent gagner.
Il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permette de dire qu'on va bien faire ou mal faire.
Oui, d'accord. Mais Malik, tu vois le problème, il est où ? Le problème, il est là. Tu as dit sans N'Golo Kanté, sans Pogba, etc., etc. Mais même avec cette équipe, en fait, on est obligé normalement d'aller en finale. Je sais pas, moi. D'atteindre le dernier carré, ça, c'est une certitude. Mais attendez. De où les 11 joueurs qui sont sur le terrain, ils jouent tous dans des... Il n'y en a pas un seul qui ne joue pas dans des grands clubs.
Et les Anglais, ils jouent dans des petits clubs, Anglais.
Non, ça,
les Portugais non plus, les Brésiliens non plus.
C'est là où tu te trompes, parce que ça ne suffit pas. C'est pour ça moi j'ai beaucoup, beaucoup de respect et de considération pour Didier Deschamps. Parce qu'au-delà des grands joueurs qu'on peut compiler comme ça, il faut former un groupe. Et former un groupe, je peux te dire que ce n'est pas facile. Déjà, on entend ici et là, d'ailleurs, Karim Benzema, il aurait dû être là, il n'a pas été appelé. Et j'ai même cru voir qu'il a.
Il venait de
tirer sa révérence par rapport à sa carrière internationale. Donc, quand tu vois, gérer une équipe, un groupe, c'est pas facile, je te jure. Même gérer une petite équipe de 4-5 personnes, bien sûr. Avec les égos, c'est des compétiteurs, ils viennent tous, il y a la concurrence, il y a pas mal de choses. Ils restent enfermés un mois parce qu'ils sont arrivés jusqu'au bout. Qui joue, qui ne joue pas, je peux te dire que c'est pas évident.
Et d'ici là,
c'est pas évident à gérer.
Quid de Giroud, quid de certains joueurs qui sont là aujourd'hui, qui sont importants dans l'équipe, il va y avoir des changements.
Lloris ne sera plus là, Benzema a annoncé sa retraite.
Lloris ne sera plus là, pour l'instant, peut-être que la plupart l'espèrent, mais aujourd'hui il est encore là. Si c'est Deschamps qui continue, on n'est pas sûr. Ouais. C'est compliqué quand, notamment, tu as été coach pendant 10 ans de certains joueurs.
Même Messi vient de dire que finalement il n'arrête pas. Même Messi.
Il a envie de profiter aussi.
Mais Messi, il a le niveau pour ne pas arrêter. Il y a aussi. Messi derrière lui.
Et Lloris n'a pas été au niveau à cette compétition.
Bah moi je pense que Lloris, celui qui pousse
derrière
lui.
Mieux faire pendant la
Moi je pense que celui qui pousse derrière lui.
Ça on est d'accord, mais tir au but.
Ne serait-ce que dans l'intox.
Mais là, moi je pense que sur la séance, Deschamps aurait dû peut-être essayer quelque chose.
Trop lisse.
On va reparler justement de cette finale. Mais on parlait, il y a des choses qui changent. On était champion du monde en 2018 et puis on se fait sortir.
On était champion du monde jusqu'à hier.
Ouais. Et puis on se fait sortir donc à l'Euro en 8e. Donc tout peut changer en 2 ans.
Ouais. Et puis on se fait sortir d'une manière assez bizarre puisque
dans le dernier quart d'heure,
au début de match, on est à la rue, on revient, on met 3 buts. Mais avec Deschamps, c'est un peu ça. Finalement le socle, c'est que tu peux pas analyser un match correctement de Deschamps, c'est impossible. Il y a trop de choses qui se passent dans la défaite comme dans la victoire. Ouais, c'est pour ça c'est à chaque fois très étrange.
Je sais pas, en fait, c'est un brouillon qui fait que tout ça, ça marche. Mais dans le jeu.
Tout peut changer.
Dans
peut
le
changer.
Jeu, je n'ai pas vu la France aligner plusieurs matchs dans le jeu et bien jouer. Je ne l'ai pas vu. Il gagne, le
premier match était assez.
En termes de jeu, il était bien. Oui, en termes de jeu.
Contre le Danemark, on n'était pas mauvais aussi.
Contre le Danemark.
Ça a laissé présager de bonnes choses, mais malheureusement derrière.
Contre l'Angleterre puis le Maroc. C'est là qu'on a senti que voilà, c'était un petit peu plus.
En 8e, contre la Pologne. Même contre la Pologne, ça commençait déjà. Contre la Pologne, le jeu n'était pas. Mbappé, il met un doublé, mais le jeu n'était pas flamboyant. Non.
Là, il fallait se qualifier. Et dès lors qu'il faut se qualifier, je pense que Deschamps rentre dans son pragmatisme naturel. C'est ce qu'il a refait. Dès que c'est un match à élimination directe, ouais. Deschamps, il rentre dans le pragmatisme.
Mais c'est là que c'est compliqué pour les adversaires.
C'est exactement ce
qu'il fait. C'est que nous, on a du mal à analyser le jeu de Deschamps. Alors pour les adversaires, anticiper un certain nombre de choses, c'est hyper compliqué.
Mais l'Argentine l'a fait hier.
Beaucoup jouent derrière. Alors,
l'Argentine est venue et a pas craint cette équipe déjà. Ce qui est,
mais je pense que l'Angleterre ou le Maroc... On a été battu quand même tactiquement pendant 70 minutes.
Hein. 80 minutes.
Pas que tactiquement, physiquement. On était cuits.
Ils faisaient des fautes que nous on faisait pas, des fautes intelligentes qui faisaient que nous on faisait pas. Ils étaient partout plus agressifs, des fautes. Il y a eu beaucoup de fautes.
Le ballon brûlait les pieds, on n'a pas su faire un contrôle. Il n'y avait pas de ressort.
Il
n'y
avait pas de tir cadré. Première mi-temps, zéro tir cadré.
Parce que l'équipe argentine n'arrêtait pas justement de sauter notre milieu.
On était à la rue, on était cuits.
Malik, c'est pas une excuse.
Je suis pas d'accord avec ça.
T'as bien vu Rabiot, le visage.
On a été dominé depuis le début. Qu'on soit cuit à la 45e ou à la 60e, je veux bien. Mais dès l'entame du match, tout de suite, on n'était pas dedans. On n'était pas cuit dès le départ du match.
Si, on était cuit.
Non, je suis pas d'accord.
Non, je pense pas qu'on était cuit. Je pense simplement que les pressions était fait à l'envers, que il y a des matchs comme ça, on peut mettre tous les ingrédients qu'on veut, quand ça veut pas on n'est pas dedans.
Griezmann, Giroud,
mais aucun joueur n'a été à son niveau.
Il y avait zéro coordination.
Il a fallu le coaching de Deschamps pour que
il a pris ses responsabilités. C'est rare chez Deschamps de faire des changements aussitôt.
Ouais, mais une nouvelle fois,
à 2-0, j'ai envie de te dire, il a plus rien à perdre.
Coaching payant, ouais.
Et en finale de Coupe du Monde, surtout, t'es obligé. 2-0 finale de Coupe du Monde,
oui, mais 2-0 en finale de Coupe du Monde, sortir Giroud à ce moment du match. C'est plus compliqué que sortir
Dembélé. Non, parce que juste avant, tu voyais les matchs qu'il avait fait. Tu vois le but contre l'Angleterre, il l'a fait. Mais on savait que.
Et tu te dis pas sur une fin de match.
Non, Giroud, il n'aurait plus.
Moi, je vous dis, moi, je suis pas dans la tête des champs, mais après, avec le recul, je regarde, je me dis, il sort Giroud pourquoi ? Il sort Giroud parce qu'il comprend tout simplement que Otamendi et tous ses amis derrière balançaient tout de suite, sautaient le milieu de terrain. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire forcément un pressing sur les défenseurs adverses. Chose que n'arrivait pas à faire Griezmann, Giroud et Dembélé. Donc, quand il fait rentrer Colomoigny, la consigne qu'il lui donne, c'est quoi ? Dès que Colomoigny rentre, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'arrête pas de presser. La preuve, ça payait. Même Coman, il arrache un ballon à qui ?
Il a gagné 13.
Il arrache un ballon à Messi, Coman, pour le but qui arrive après. Et donc, je pense que la tactique qui a été remise en marche par Deschamps, c'était de faire le pressing, chose qu'on ne réussissait pas à faire.
Colomoigny...
Et c'est pour ça qu'il a fait sortir Giroud en mon sens.
Malik, je voulais juste revenir sur le truc de Colomoigny, une petite stat comme ça, une hot stat, Colomoigny a gagné 16 de ses duels. Pour un attaquant, c'est pratiquement du jamais vu. Dernier, c'était Gattuso en 2006.
Donner les statistiques comme ça, c'est bien beau, mais 16 duels sur combien ?
Tous ces duels, je crois. Je crois que c'est pratiquement tous ces duels. Ils avaient dit 16 duels sur...
Parce que c'est 16 sur 100, tu vois.
Non, j'ironise,
je veux dire, autant 16... aller au bout des stats, quoi. Tu vois.
Oui, mais on te dit qu'il n'y a personne qui a fait ça depuis Gattuso en 2006. Ça veut dire l'incroyable stat, quoi.
Non, c'est énorme. Et surtout,
sois précis.
L'image de la première fois.
16 duels sur combien de.
Mais si on te dit que personne ne l'a fait depuis Gattuso.
Depuis Gattuso qui en avait fait 17 en 2006.
Bah oui, c'est que la stat.
Non, mais j'ai vu le match. Je sais que Colomoigny, il est bien rentré dans son match. En fait, il a dynamité cette équipe.
Il donne le tempo.
Il est venu semer la révolte.
Moi, je n'ai pas vu perdre beaucoup de duels hier. Tu vois.
On est d'accord là-dessus, mais c'est pour les auditeurs. Il faut être précis. En fait,
sincèrement, on n'en menait pas large. Au bout de 75 minutes, on s'est dit c'est fini. Allez, on va rentrer à la
maison. Moi, justement, je commençais à me dire on va pas y arriver.
On était tous au studio. Moi, je priais plutôt pour ne pas être ridicule.
Ah oui, parce qu'on allait plus faire un 3-0.
Moi, jusqu'à la 60-65e, j'étais encore bon.
Non, mais je veux dire, en termes de score,
on peut y arriver. Mais 75e, je me suis dit, ça y est, on va pas y arriver, ce match-là, il est foutu. Franchement, on n'en touchait vraiment pas une.
Et on était presque sur un 3-0, rien. Hein, ça aurait pu être un 3-0.
Mais l'impact de Colomoigny et Thuram, parce que la première faute de Colomoigny, elle donne le ton. Elle montre aux autres, les gars, c'est bon, on est dedans, on y arrive. Et derrière, ça déclenche beaucoup de choses. Et les entrées des deux sont hyper intéressantes. Et Kamavinga aussi, très bonne entrée.
Oui.
Les changements ont porté leurs fruits, tardivement, mais ils ont porté leurs fruits en tout cas.
Ce qui fait que...
À la 40e, on peut pas dire que c'est tardif, hein.
Non, non, j'ai dit, ils ont porté leurs fruits tardivement.
Après, j'ai envie de te dire, ils seront titulaires, je pense que ça aurait porté leurs fruits beaucoup plus.
Je sais pas sûr.
Et t'en rappelles, Malik, t'avais dit, le coup qu'il aurait pu tenter. Pour débuter le match, c'était de ne pas mettre Giroud et de tenter.
C'est Eric qui l'avait dit.
Non, je pense. Non, je l'avais dit. Je l'avais.
Ouais, non, je crois que Malik aussi
je pense que c'était certainement un de ses plans initiaux. Sauf qu'à la
dernière minute, il a dû se dire
malgré tout, je reste sur mes fondamentaux. Mais je pense que pour contrer cette équipe, il a dû se dire à un moment donné, est-ce qu'il faut pas que je mette Mbappé en pointe de sorte à ce que Marcus Thuram soit sur le côté gauche et permettre à donner un coup de main à Hernandez. Je pense qu'il était parti sur ça. Et à la fin, il s'est dit, j'ai gagné avec Giroud, je commence avec lui. Et si d'aventure, dans l'évolution du match, il y a des changements à opérer, je ferai comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas vraiment hésité longtemps. Il a fait ça dès avant même la mi-temps. Ouais, parce que c'était déjà un plan qui avait été, je pense, élaboré.
Mais il l'avait travaillé, il disait qu'il le travaillait. Il disait qu'ils avaient travaillé
ce système. Et même, il avait déjà testé ça. Non, au-delà de l'entraînement, Marcus Thuram qui rentre et puis Mbappé qui passe dans l'axe. Soit c'était face au Maroc. Donc il avait déjà testé cette formule-là sur une période relativement courte. Mais il avait déjà ça bien en tête.
Parce que Thuram apporte beaucoup d'impact. Et Deschamps voulait un joueur qui soit là, qui puisse faire un gros pressing. Et c'est vrai, il s'est dit certainement, j'ai commencé avec Giroud la compétition, ça va être compliqué de le sortir. D'autant qu'il. Le doute était sûrement parce qu'il avait une petite gêne, Giroud. Je pense qu'ils ont préparé aussi ça avec ce doute-là. Et à un moment, il prend la décision et je pense que c'est une bonne décision de faire le changement.
Ça a presque failli passer. C'est vrai que l'espoir revient à 2-1. On se dit, peut-être que 2-1.
Parce que tu sais que le 2-1 change tout mentalement, psychologiquement.
Bien sûr.
L'Argentine, d'autant que l'Argentine a déjà subi une remontée.
Ça, c'est quand même face aux Pays-Bas, un fait. Il y a eu l'Australie où l'Argentine s'est quand même fait peur. L'Australie revient à 2-1 et l'Argentine s'est quand même fait peur. Et il y a eu les Pays-Bas qui ont joué que 10 minutes et qui reviennent à 2-2. Et l'Argentine s'impose.
C'était
un petit peu pareil. C'était pareil.
C'est ce que
les Français sont revenus. Ils s'imposent quand même, mais c'est fou quand même.
Mais l'Argentine a du mal sur cette temps faible. Elle en a peu dans le match. Non, je pense pas. Je pense que à un moment donné, ils se disent on va arrêter de se découvrir trop. On va tricoter un peu plus.
Ouais. Mais Di Maria qui sort.
Moins d'impact.
Justement, j'allais l'évoquer. Je pense que la sortie de Di Maria aussi favorise les offensives françaises qui sont en ce moment-là beaucoup plus tranchantes. Beaucoup plus importante. Et franchement, la sortie de Di Maria libère carrément notre latéral qui, en ce moment-là, a la possibilité d'être beaucoup plus offensif.
Oui, mais le changement est obligatoire. Di Maria n'a pas une heure et demie dans les jambes. Il n'a pas beaucoup joué une heure dans la compète.
Ouais, mais c'est Di Maria. C'est compliqué, tant qu'il était là, si tu as remarqué, même en première mi-temps, il ne faisait pas beaucoup de replis défensifs. Di Maria, il jouait un peu comme Mbappé chez nous.
Il a été excellent.
Donc, je pense qu'il provoque le pénalty, il marque le second but. Franchement, je veux dire, tant que Di Maria était là, on avait quand même, surtout que Koundé, c'était très, 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 très moyen pour être gentil. Donc, je pense que la présence de Di Maria, simplement, même fatigué, je crois pas qu'on soit revenu à 2-1.
Il faudra revenir sur ça aussi, d'ailleurs.
Di
Maria talentueux aussi.
On connaît Di Maria, c'est l'homme des grandes finales.
Je dis réussite parce que le deuxième but, je sais pas si vous le voyez, il tope le ballon. Et ça rebondit juste au-dessus de Loris. Sa frappe, elle est pas incroyable.
Mais ça, Loris, il doit l'arrêter. Pour moi, Loris, il doit l'arrêter, ça.
Je sais pas.
Il doit l'arrêter. Ça le passe juste au-dessus du corps, vite fait. Tu vois bien, ça le frôle même. Faut arrêter. Moi, franchement, t'as un problème
avec Loris.
Non. Tu vois, Loris, en 2018, ça allait 2 minutes. En 2018, il nous fallait pas de façon un très grand gardien parce qu'on avait.
Il a été excellent.
Il était bon en 2018.
Ils ont deux occasions à sauver dans le match. Il le faisait excellent.
Il a été bon. Je dis pas qu'il a pas été bon. J'ai dit en 2018, il a été bon, etc. Voilà, respect. Mais après ça.
Il a eu quand même aujourd'hui des arrêts déterminants sur ce mondial. Après, c'est son jeu.
Pas assez.
En même temps, il est là pour ça.
Il y a que ses jeux au pied qu'on peut lui reprocher, mais c'est un gardien. Aujourd'hui, en 2022,
il y a des gardiens qui font des toiles, des grosses toiles.
Combien de ballons il nous met directement en touche?
Là, par contre, on sait bien qu'ils sont joués en pied.
Quand j'entends les réflexions, même Stéphane le disait, Loris, machin, c'est la même chose que tu dis, quand tu dis, il nous a sauvés, je veux dire que c'est à ce niveau de la compétition. Les arrêts que Loris nous fait durant cette compétition sont des arrêts basiques. Moi, quand je vois les à ce niveau de la compétition, je dis. Mais quand je vois l'arrêt du gardien Hernandez hier sur Colomouani, je dis ça, c'est des.
Martinez.
Je te promets que si.
Loris en a fait aussi.
Cet arrêt, Loris à la place de Martinez, Je ne suis pas certain qu'il l'a fait.
Il ne le fait pas. Mais vous savez, c'est quoi le problème de Loris? On l'a vu en tant que cadre.
C'est son jeu de pied.
Il est capitaine. On l'a vu en tant que cadre. On ne veut pas le bouger parce qu'aussi, il est à Tottenham. Il n'a pas de concurrence à Tottenham. Il est dans un fauteuil. Faut dire la vérité. Il est dans un fauteuil. Il n'a personne derrière pour le pressionner. Et en équipe de France, on sait. C'est le cadre, c'est le capitaine. On l'appelle quoi qu'il arrive. C'est aussi simple que ça.
Il a un impact sur le groupe. Il a un impact. Faut pas oublier l'extra sportif aussi sur le groupe. Que ce soit à Tottenham où il est capitaine ou que ce soit en équipe de France. Il a un impact. Ce qu'il dit dans le vestiaire est important.
Franchement, tu l'as déjà dit prendre la parole dans le vestiaire.
Mais en fait, Lloris, les gens pensent que c'est juste un gentil, mais dans le vestiaire, il ouvre sa gueule. Ouais, c'est pas quelqu'un de toujours calme. J'ai vu un reportage de Tottenham sur Prime Video. Ouais, c'est un gars qui parle. Il sait dire les choses quand il le faut.
Il a pas une tête, mais il parle.
Malgré tout, notamment cette année, on avait besoin quand même de leaders.
Moi, je pars d'un principe.
Non, mais ça se voit quand même.
On est tous plus ou moins ici dans le sport. Je pense qu'il parle. De façon directe ou indirecte, on peut pas faire cette carrière-là si on n'a pas de mental, si on n'est pas costaud. Voilà, forcément. Ce fighting, il a quelque chose. Mais j'estime qu'aujourd'hui, peut-être que il y a une page qui est en train d'être tournée, tout simplement.
Combien de clean sheets?
Je regarde un peu les matchs de Tottenham assez régulièrement. Il fait assez souvent quand même quelques tuits.
Il encaisse tous les matchs.
Quand c'est cadré, ça fait un peu peur avec
Loris. Malik, qu'on parle sérieusement. Combien de clean sheets? Les gardiens, combien de clean sheets? Parce qu'il a des défenseurs en or. En vrai, hein, il a des défenseurs qui sont très très forts.
Ces derniers mois, c'était pas le cas. Je suis désolé. C'était beaucoup de joueurs inexpérimentés qui étaient devant lui. On a eu des mauvais résultats ces derniers mois en équipe de France, à part à la Coupe du Monde. Mais je suis désolé. Varane n'était pas là pendant un bout de temps. C'était ses premiers matchs. Il en a fait d'ailleurs qui étaient catastrophiques les premiers matchs.
Bien sûr.
Il y a Konaté qui a intégré le groupe. Il y en a plein qui ont intégré le groupe. On a joué à 5 derrière. On n'était pas bon et on ne peut pas mettre tout ça sur le dos de Lloris.
Durant cette Coupe du Monde,
moi je pense que la défense française, à part Koundé, tout le reste, Koundé, même Mécano, il a fait son poste.
Malik, c'est pas son poste.
Ça, c'est pas mon problème. Moi, je le juge sur pièce. C'est limite. C'est limite.
Alors, juste avant d'envoyer la pause musicale, la troisième place, Croatie-Maroc, c'était un match ouvert. On s'y attendait un peu. Bon, voilà. La Croatie, un petit peu plus fraîche techniquement, a fait la différence.
Moi, je misais sur la Croatie parce que le facteur psychologique, je pense, était important là-dessus. Quand tu as une déception à ce point, on l'a vu, hein, les Croates étaient déçus après la demi, mais pas de la même façon que les Marocains. Les Marocains, c'est le tournoi de leur histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Pour se remettre deux jours après dans un état d'esprit de guerrier, c'est compliqué.
Puis Walid Regragui le dit après le quart de finale, je nous voyais aller au bout.
Beaucoup de blessés. Regragui était malin aussi, parce qu'il a dit qu'il allait sûrement faire tourner, il n'a pas fait tant tourner que ça. Il a essayé quand même d'aller la chercher. Il y a eu les blessés,
ça lui est retombé sur la gueule. Saïs qui se blesse à la 20e minute, il le sort, etc. Il y a eu des blessés et ça lui est retombé. Hein. Il a effectué tous ces changements.
Moi, je pense que le Maroc a fait sa coupe.
Ils n'ont pas un banc assez profond pour manquer d'ambition, mais je pense qu'il leur est arrivé quelque chose.
Maintenant, ce qui est bien avec le Maroc, c'est de voir la suite, déjà pour la prochaine CAN qui arrive dans quasiment un an. On va voir comment le Maroc, déjà il va falloir se qualifier, aller jouer en RDC, aller jouer machin, quand tu prends Ziyech pour aller jouer sur des terrains pourris en Afrique, on va voir comment le Maroc va, déjà il va falloir que le Maroc se qualifie et c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné.
Maintenant ils ont un nouveau statut, ça va être compliqué
d'assumer un nouveau statut
parce que tout le monde
quand les équipes à la maison vont mettre le bus devant la défense, il va falloir un grand Maroc, hein. C'est à ce moment là on va voir si vraiment des champions sont nés.
À mon avis, pour la CAN, ils vont se qualifier assez facilement.
On verra bien,
déjà premier de leur poule avec 6 points. À mon avis, pour la CAN, ça va le faire.
On se qualifie. On se qualifie.
RDC, dans une poulet avec Afrique du Sud, Libéria, tout ça.
Oui, non, RDC.
Mais c'est les conditions.
Ils ont mis combien à RDC? 4-1 et match retour, combien?
Le Maroc. En qualification.
Il y avait beaucoup de buts.
C'est un partout au match aller, 4-1 au match retour.
Les spirales changent vite. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont fait demi-finale, ça va être facile pour eux. Loin de là, ils vont être attendus. Donc ça va être encore plus compliqué.
Moi, je peux te dire, les matchs en Afrique, mon gars, c'est pas gagné. Déjà, il faut. En plus, ils jouent quasiment tous à l'étranger. Il faut réunir le groupe. Il faut partir dans des pays qu'ils ne connaissent pas, dont l'environnement est très hostile, les conditions climatiques, l'état des pelouses, l'environnement général. Et puis, je peux te dire que ça change beaucoup de choses. Il y a des facteurs extérieurs qui arrivent qui donne pas forcément. Si tu si tu n'es pas au niveau, si tu prends pas la compétition au sérieux, si tu dis pas il faut que je cravache, tu peux passer à côté.
Mais après c'est quelque chose qu'ils connaissent, qui que le coach, que le coach qui est entraîneur en Afrique connaît aussi. Enfin pour le Maroc,
c'est plus facile de fédérer un groupe autour de soi pour une compétition comme la Coupe du Monde. C'est un moment, c'est un court laps de temps que sur un an et demi, deux ans de préparer des choses, etc. De convoquer de nouveaux joueurs, etc. Donc il y a une approche qui n'est pas la même du tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas se projeter si facilement.
Et c'est pour ça que ça bouge très vite. On l'a vu pour l'Euro. Les équipes qui ont brillé à l'Euro, ne serait-ce qu'il y a un an et demi, personne. L'Italie, pas de Coupe du Monde. L'Espagne est éliminée en huitième. Le Danemark est éliminé au premier tour. L'Angleterre qui ne passe pas l'écart.
C'est pour ça que j'ai en tant que probabilité.
Tout peut bouger très vite. Dans le foot moderne, ça bouge très vite.
C'est ça. Le foot, c'est le sport qui laisse place au plus de surprises parce que. Un but alors que l'autre équipe a 25 occasions et n'en met pas une, il suffit d'un but pour gagner le match et ça tu peux perdre contre le Zimbabwe comme contre n'importe quelle équipe africaine, européenne.
C'est ce qui fait la beauté du football. Hein.
Exactement.
Rien n'est... Voilà. Allez, une petite pause avec RK Lola et ensuite on va revenir sur ce bilan de cette belle Coupe du Monde de foot.
Tu l'as dit, belle Coupe du Monde. Ouais.
Trop concentré, j't'ai vu, je suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court, j'fais rentrer pop et le dollar. J'te rappellerai peut-être à l'occasion, j'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande tes clients, on t'a vu dans le coin, mais tu nous évites, ma Lola. J'sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. T'es ma Lola, je connais pas de comme toi. Mais vu que la journée est minée, tu vois pas mon vrai visage. J'suis dans la guignée. J'encontre le papel, le cœur abîmé. J'ai le dos sur les palettes, encore un délit. J'suis pas bête, j'connais les affaires, moi c'est mon cartel qui m'embellit. Baby, j'suis toujours en bas, j'suis très loin de ces mécontents. J'suis même pas en ce moment, y'a des sales histoires et ça devient salissant. Juste un signe de vie, j'ai pas besoin de toi, juste un signe de vie. Moi c'est pas que j'veux pas, mais plutôt j'évite, j'ai les idées noires dans mon cœur, baby. J'suis pas trop concentré, j't'ai vu, j'suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court, j'fais rentrer pop et le dollar. J'te rappellerai peut-être à l'occasion, j'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas, ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande tes clients, t'as vu dans quoi, mais tu nous évites, ma Lola. J'sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. C'est ma Lola, je connais pas de comme toi. Mais vu que là j'en ai miné, tu vois pas mon vrai visage.
Voilà, cette émission, naturellement, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions du Mondial et puis même toutes celles depuis le début de cette saison. Abou, j'ai appris que l'équipe de France donc, serait à la Concorde, malgré tout, à partir de 20h30.
C'est ça, 20h30 à la Concorde.
Un petit après, rassemblement.
Ouais, moi, je donne mon avis personnel, j'espère n'en heurter personne. Parce que là, j'ai bien dormi, en plus, je vais dire ça, ils vont croire que je suis contre l'équipe de France, mais pas du tout. Mais c'est, pour moi, c'est ridicule de faire ça, les mecs, vous avez perdu.
Surtout que.
Vous êtes éliminés.
Surtout que mon cher Abou, on nous avait tous interdit de regarder les matchs de l'équipe de France.
Ah ouais, on devait boycotter.
Voilà,
on va tous à la Concorde alors qu'on a perdu.
On nous met pas d'écran géant. Il fallait même chez soi. Il fallait couper l'électricité pour ne pas regarder les matchs. Parce qu'en plus du fait que le match soit au Qatar, en plus c'est à l'électricité qui coûte cher. Hier la pointe au niveau des audiences, je crois, on parlait de 29 millions.
On est clairement
dans ce monde hypocrite là.
On est clairement sur un coup politique d'Emmanuel Macron. parce qu'il sait l'impact que le football a sur la politique et ce que ça a pu donner en 2018 et dans les mandats précédents. Il y a un super reportage d'ailleurs qui a été fait entre la politique et le foot. C'est super intéressant à analyser.
Je l'ai vu. Et pour moi, c'est un coup. C'est sur Arte, non ?
Non, c'était sur France 5, je crois.
France 5, je pense.
Je l'ai vu.
Un super reportage. Et on voit les liens vraiment entre ce qui se passe en équipe de France et l'homme politique. Qu'est-ce qui peut être généré par ça? Et là, encore une fois, ça va être de l'image. Là, on a des super photos d'Emmanuel Macron d'hier au stade, etc., comme en 2018.
Moi, j'ai suivi, Julien, tu as tellement raison, j'ai suivi un peu le parcours du Sénégal. Aujourd'hui, il y a une récupération qui est un peu faite au niveau du Sénégal avec Macky Sall. C'est la même chose.
Dans tous les pays du monde.
L'équipe a passé le premier tour, est sortie des poules. C'était plus ou moins inespéré.
Elle est éliminée en
8e.
Jadis, elle était en quart.
Pour une équipe comme le Sénégal, déjà, il y avait eu quand même un certain entrain et tout ça. Il y avait beaucoup d'espoir, tu vois. Donc ça a généré quand même une forme de plaisir au niveau du peuple. Le président de la République, en l'occurrence, s'en est servi.
La phrase qui m'a fait le plus rire, c'est Macron avant la compétition qui dit « Le football ne doit pas être politique », alors qu'il sait très bien que c'est très politique et dans tous les pays qui soient. C'est un argument énorme et ça leur permet de gagner des points à chaque fois. Le président en cours de mandat, Chirac à l'époque avait énormément bénéficié.
Quoi qu'en 2018, on est champion du monde et il y a les gilets jaunes quelques mois après.
Il y a les gilets jaunes. Oui, mais il y a 6 mois où Macron, Chirac, ses scores augmentent et il y a des images de lui. On a presque envie de le soutenir même si on l'aime pas. Ça impacte de toute façon.
L'Argentine, par exemple, qui gagne cette coupe aujourd'hui, je peux te dire que ça va faire un vrai bol d'oxygène parce que économiquement, en ce moment, le pays est vraiment, vraiment dans le dur. Et je peux te dire que ça aide le président. C'est Alberto. Hein, Alberto Fernandez.
Il n'est pas venu.
Mais je veux te dire que ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Il a au moins 3 mois d'accalmie, de répit.
Il hypothèque les maisons.
Tu t'imagines le président de l'Argentine qui va au Qatar alors que dans ton peuple t'es en train d'hypothéquer, les gens ils ont pas de quoi manger, ça aurait été compliqué.
Alors Eladji, autre info qui est tombée aujourd'hui, c'est fait, Benzema donc arrête sa carrière internationale.
Mot pour mot, j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, Noévé. Avec un maillot de l'équipe de France numéro 19 qui sert le point pour dire.
Je pense qu'on va en savoir un peu plus dans les.
Mais on en parlait déjà.
Qu'est-ce qu'on doit savoir qu'on ne sait pas encore ?
Je pense que. Il y a deux choses. Ouais. Déjà, si Deschamps s'en allait, il y aurait beaucoup de langues qui vont se délier parce que ça fait 10 ans qu'il est en poste. Il y a forcément des déçus. On peut dire qu'il a fait un super travail, mais il y a forcément des déçus qui pourront l'ouvrir plus facilement, on va dire.
Mais même s'il reste. Le pari que Deschamps parte.
Non, moi je pense qu'il va rester. Je pense qu'il va rester. Mais par contre.
Mais moi, j'ai pas dit Benzema, qu'il va être viré. Je pense que de sa propre chef, il va partir.
Faut se poser la question. Si il pense que Zidane va venir en équipe de France, est-ce qu'il fait cette annonce-là? Je pense pas. Je pense qu'il attend plus longtemps pour faire une annonce. Donc peut-être qu'il a un peu des indications, ou en tout cas,
il sait.
Il pense que Deschamps va rester en place. Il dit j'arrête. Et je pense qu'il y aura un gros déballage.
Quand bien même il fait cette déclaration, imaginons par extraordinaire que, par exemple, Zidane arrive et que Zidane l'appelle. Ça change quoi de revenir sur son propos? Ça change rien du tout.
Il peut revenir,
mais c'est... On l'a vu à maintes et maintes reprises. On a vu Messi, finalement, qui rempile.
Messi, Cristiano Ronaldo, qui rempile.
C'était pas pour les mêmes raisons.
Dire, finalement, c'est vrai que je pensais partir. J'avais 35 ans. On venait de perdre la finale. Je pensais que j'étais un peu... Il y a une nouvelle génération. Mais aujourd'hui, mon pays m'appelle. Tu sais, le discours de circonstance, ça, même moi, je peux le rédiger pour lui, tranquille.
T'as peut-être raison, mais je trouve que c'est un peu précipité. Et je pense qu'il a surtout envie de lâcher des choses, Benzema.
Il y a beaucoup de fierté.
Je suis désolé. Alors, peut-être qu'il a raison sur un certain nombre de choses qui ne sont pas allées dans le bon sens, etc. Peut-être qu'il a une légitimité à dire des choses, mais même 2 jours avant sa communication, avant la finale, je suis désolé, c'est problématique. Et on peut en dire ce qu'on veut.
Dans les prochaines semaines,
mettre un doute sur des choses, envoyer un message aussi peu clair, il sait très bien ce que ça va engendrer comme polémique.
Très énigmatique.
Allez, on va écouter le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane, qui est un petit peu malade et souffrant en cette fin de mondial. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir. J'ai des coups de gueule et coups de cœur. S'il y a un petit peu de commentaires à faire sur la Coupe du Monde, j'ai entendu tout ce que vous avez dit les uns les autres. Alors déjà, juste effectivement, j'ai tout écouté. Donc je crois que ça lui a été répondu sur le plateau. Pour le carton, la faute du gardien. oui, croate, quoi, contre l'Argentine. S'il n'y a pas rouge, c'est tout simplement, c'est simplement réglementaire, hein, parce que là, ça a été aboli, la double peine, pénalty et carton rouge a été supprimé.
Mais dans ce cas, il y aurait eu carton jaune.
Il y a encore, ça reste à l'appréciation.
Il aurait dû avoir carton jaune.
Même carton jaune, il n'a pas eu. Donc, il n'y a pas faute.
Il y a eu le jaune, Malik.
Non, il n'y a pas de jaune.
Si, si, si.
Si, il a eu le jaune.
Il a eu le jaune.
Ouais, je pense qu'il a eu, parce que sinon. Mais bon, de toute façon, effectivement, ce qui est intéressant de voir juste, c'est que. Pour ce qui est des tirs au but, en fait, il y aura toujours VAR, pas VAR, vidéo, pas vidéo. Il y aura toujours, toujours des
non, pas des tirs au but, des pénaltys, tu veux dire, Stéphane.
Pardon, excuse-moi. Pour les pénaltys, il y aura toujours, toujours des discussions. Enfin, pour moi, personnellement, il y a une grosse, quoi. Mais c'est encore pareil, comme tu le disais, Philippe, par rapport aux visions qu'on a, nous, même si je suis supporter français à 2 milliards %, pour moi, il y a un gros scandale dans quoi que je n'arrive pas à comprendre dans cette Coupe du Monde, c'est que sur la faute de le Théo Hernandez sur Sofiane Boufal, on donne faute de Boufal et on met un carton jaune à Boufal. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Et fait que alors mais trois personnes dans un car, l'arbitre de champ puisse dire ça, j'avoue, c'est le gros fait d'arbitrage que j'ai pas compris dans cette Coupe du Monde. Maintenant, effectivement, je vais dans mes coups de gueule avant de revenir dessus, il y en a un particulièrement. Alors, tu vas peut-être te sentir concerné, Malik, j'en sais rien, qui est effectivement contre tous les polémistes et les gens qui disent que la Coupe du Monde, elle était programmée pour Léo Messi. Je partage ce que disait Julien et d'autres, c'est-à-dire effectivement, on met moins facilement un jaune, c'est comme ça, c'est inconscient.
Ça a toujours été comme ça, ouais.
C'est inconscient, tu mets moins facilement un jaune à Messi que un autre joueur, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faudrait vous avoir ça avec des psychiatres, des psychologues. Maintenant, bon,
non, c'est vrai, c'est humain, c'est ouais. Humain, hein, tout simplement.
Moi, je pense
en général, quand on consulte des psychiatres, des psychologues, c'est qu'il y a gravité. Hein. Donc, tu es d'accord avec moi,
c'est grave. Peut-être, mais c'est comme ça, si tu as... Et puis après, bon, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a pénalty pour l'Argentine contre l'Argentine, mais peut-être que je le pense.
Il y a pénalty chez Marcus Thuram hier ou pas?
Oui, ça m'a pas du tout marqué.
Parce qu'on t'a pas remontré
non,
le
non, c'est parce que c'était pas l'Argentine, c'est pour ça que ça t'a pas choqué, Stéphane. Ça serait, bah, ça serait Stéphane.
Pour la France,
tu sais pourquoi, tu sais pourquoi je te pose cette question, Stéphane? Parce que c'est la même action que celle dont tu parles avec Boufal. C'est la même chose. Et là, en l'occurrence, Boufal a reçu le carton jaune et hier, c'était
Marcus Thuram
qui a reçu le carton jaune.
Le carton jaune, exactement.
Ouais, ouais,
il y avait autant pénalty que le pénalty de
Colomboigny. À tête reposée, essaie d'aller revoir l'action.
Ouais, et que le pénalty de...
Peut-être, ouais, tout à fait. Je ne dis pas le contraire. Hein, donc peut-être, effectivement, qu'il y a eu arnaque là-dessus.
Et ils n'ont même pas regardé la VAR. C'est un scandale.
Parce que Marcus Thuram aurait dû rester par terre, c'est tout.
C'est vrai que l'arbitre a semblé pas tellement regarder. Mais bon, l'autre chose qui m'énerve aussi dans les coups de gueule, c'est qu'il faut arrêter aussi les Espagnols. Oui, alors moi, j'ai vu les 4 équipes demi-finalistes. Il n'y en a pas une qui est plus forte que nous. Les Anglais, oui, c'était nous qui étions les meilleurs, donc on devait gagner.
C'est le syndrome belge.
Tout le monde, mais toutes les équipes, même les Marocains, même s'il y a eu ce pénalty-là, oui, mais il y a eu des fautes et tout, ils vont jusqu'à porter plainte et tout ça. Je veux dire, moi, quelque part, au bout du compte, ça me fatigue. Au bout du compte, c'est quoi? Le meilleur gardien, alors apparemment, tout est trafiqué. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde, nommé le gardien argentin. Le meilleur espoir de la Coupe du Monde, nommé le joueur argentin. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, un argentin. Bah, c'est quand même pas étonnant et c'est pas que grâce à des pénaltys frauduleux que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. C'est parce qu'ils ont quand même quasiment... ils ont beaucoup. Et puis personne ne peut dire que Enzo Fernandez, notamment celui qui est le meilleur jeune, De Paul, ce n'est pas des joueurs, même McAllister, ce n'est pas des joueurs qui ont fait une superbe Coupe du Monde.
Mais moi, je peux te sortir des Marocains qui ont fait des super Coupes du Monde, hein, qui sont pas
exactement,
finale,
mais hein. Sauf
qu'ils ne sont pas argentins.
Exactement. Il y a plusieurs... mais seulement, un par exemple, que je mets dans mes... Bon, c'est un peu en désordre là, dans mes coups de cœur. Le Maroc, bien sûr, est un des grands, grands coups de cœur de la rédaction du quotidien du sport. Le Maroc, en général, et je mets Amrabat, Ounahi, Hakimi ou Bounou en particulier. Tu prends Ounahi, par exemple. Je crois que c'est un joueur qui a... je sais pas quel âge il a, il est peut-être
je crois 24 ans je crois de mémoire.
Ouais, il est peut-être il doit avoir 24, il est dépassé par âge. Mais bon, ces joueurs là, ils sont énormes aussi effectivement. Donc ça veut dire qu'ils méritent d'arriver en demi-finale. Mais je veux dire par là ils ont pas été là ils sont pas là par hasard les Marocains, comme les Argentins sont pas là par hasard, comme les Français sont pas là par hasard et comme les Croates non plus n'étaient pas là par hasard quoi. Ceux qui sont pas là
22 ans, pas 24, 22 ans.
Ouais. Ceux qui sont pas là où ils devaient être, à mon avis, c'est les Brésiliens, qui auraient dû être largement au moins en finale, ou en tout cas au moins en demi-finale contre l'Argentine. Je suis pas sûr qu'ils soient débarrassés de l'Argentine assez facilement. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, après, tout le monde a son avis. Il faisait un pénalty, tu le fais regarder par 100 personnes. Alors, peut-être qu'il y en a 49 qui vont donner. Excusez-moi, relance Covid. Et il y en a 49 qui vont donner penalty, 51 qui vont dire qu'il n'y a pas penalty. Bon, là.
C'est logique, hein, finalement, de rager quand on se fait éliminer, qu'il y a des décisions litigieuses. Encore une fois, je le disais tout à l'heure.
Non, Julien, si
on est l'Angleterre, on peut s'estimer lésé face à la France, comme le Maroc.
En première mi-temps, hier, on se fait bouffer. Tu es déçu, mais tu sais que l'équipe en face est plus forte. Il n'y a rien à dire. Tu t'en prends plutôt à tes joueurs.
Ça, on est d'accord. Alors, mais je peux pas m'empêcher.
Quand à un moment donné, le jeu tend à se rééquilibrer et que tu réduis le score, tu reviens même à être à égalité, là, à ce moment-là, il y a plus ou moins un équilibre entre les deux équipes. Et là, quand l'arbitre, justement, n'est pas très juste dans ses prises de décision et que ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, je suis désolé, on a un droit de regard quand même sur ce qui se passe.
Bien 93e minute, 90 plus 3, il y a pénalty sur Marcus Thuram, il y a 3-2. Le match est fini.
Peut-être, certainement. Mais c'est encore une fois ce qui se passe dans les grandes compètes. C'est des micro-détails qui font la différence. Ça n'a pas tourné dans notre sens. Et ça a tourné dans notre sens dans d'autres matchs.
Non, là, en l'occurrence, cette Coupe du Monde, il y a eu trop de micro-détails pour l'Argentine. C'est tout ce qu'on dit. Après, ça n'enlève pas la qualité de l'équipe argentine. Ça n'enlève pas la qualité de Messi. Messi, même si c'est vrai qu'il est champion du monde pour la première fois, ça n'enlève pas du tout la qualité de Léo Messi. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais je veux dire, il y a certains matchs où il a été élu homme du match parce qu'il était là. On n'a pas pris le temps de regarder tout ce qu'il y avait autour de lui. Que ce soit dans son équipe ou même face à l'équipe adverse. Ouais. C'est ça qui me désole parfois.
Malik, ouais.
Malik, tu as, je crois, je ne me rappelle plus de l'adversaire et du match exact. Autour de la table, vous allez sûrement pouvoir le dire. Il y a un match de la Belgique que j'ai vu, par contre, j'ai vu une mi-temps, mais après, j'ai arrêté tellement c'était fatigant. C'est peut-être Belgique-Maroc.
Oui, c'était le Maroc.
Qui fait match nul. Ah, où c'est Kevin De Bruyne qui est élu homme du match. Qui a pas arrêté pendant tout le match les commentateurs.
Qui a fait une Coupe du Monde pourrie.
Ouais, qu'il était fantomatique et tout.
Mais il l'a reconnu lui-même.
Simplement pour te dire, malheureusement, que c'est pas Messi De Bruyne, c'est pas Mbappé. Simplement, ils étaient peut-être tous mauvais. Les mecs, ils ont un joueur qui considèrent dans leur tête comme étant un grand joueur, qui est un grand joueur d'ailleurs, De Bruyne. Même s'il n'est pas bon là, bah, tout ce qu'il fait, il voit en mieux que ce qu'il a fait. Quoi. Et il lui donne le titre de meilleur joueur. C'est regrettable, je suis d'accord avec toi, mais ça veut bien dire que je pense qu'en fait on est forcément influencé inconsciemment
c'est à l'affect par ça
et probablement peut-être que moi ce que je veux dire pour terminer sur le sujet, c'est que moi je considère qu'effectivement peut-être ça influence l'arbitre à la 93e, bon, je sais pas où j'étais, j'ai peut-être pas vu cette action flagrante, que ça influence l'arbitre de pas vouloir condamner un Messi, un merde, ça serait chiant pour Messi, inconsciemment dans la tête, mais je suis complètement contre le fait qu'il y ait un complot, notamment contre la Croatie, par exemple, bon, au-delà du fait que moi je pense qu'il y a pénalty. Je veux dire, après, il y a une autre erreur, je crois, il y a un but extraordinaire fait par Lionel Messi, créé tout seul quasiment par Lionel Messi sur le côté.
Mais c'est exactement. Stéphane, c'est exactement ce qui se passe quand Maradona, face à l'Angleterre, marque de la main et qu'après il réalise ce qui reste aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va dire, l'action du siècle. C'est exactement la même chose, ça nous fait oublier ce qui s'est passé avant. C'est ça le truc, ça influence et ça libère l'équipe en face qui est capable, parce que ce pénalty a libéré l'Argentine qui a déroulé derrière.
Mais sauf que moi,
et quand on regarde ce qui s'est passé après le pénalty, il n'y a plus rien à dire. Pardon, l'Argentine a été au-dessus.
Mais je pense que ce pénalty n'est pas du tout volé. Moi, je pense qu'il est complètement légitime, le pénalty. Il est complètement légitime.
C'est des équipes qui sont très resserrées en termes de compétences et de qualité.
Ouais, mais y a pénalty,
donc quand il y a des décisions comme ça, plus ou moins litigieuses, en général...
Et je suis étonné. ça c'est vrai qu'on pourra parler longtemps, mais je suis juste un peu étonné, pour revenir sur la finale ou sur le parcours des Bleus en général, que personne autour de la table là n'a évoqué le cas de Raphaël Varane. Parce que pour moi, toi, ça a été l'objet d'un article sur le site aujourd'hui. Pour moi, il symbolise quand même un petit peu l'échec de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a fait le forcing.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Et Julien aussi n'a pas l'air d'accord. Je parle pour Julien.
Laissez-moi terminer. Deschamps a fait le forcing pour qu'il vienne. Ok, très bien. J'étais à fond derrière lui. Il a pas joué le premier match parce qu'il n'était pas encore remis complètement. Mais en fait, Raphaël Varane, je vous mets au défi de me répondre. Est-ce que vous avez vu le Raphaël Varane de la Coupe du Monde 2018?
Non, certainement pas. Mais à quel moment a-t-il été en grande difficulté plus que les autres? En finale, est-ce qu'il y a un joueur français qui est au-dessus du lot ou qui fait un match correct? Il n'y en a pas un. Donc on ne peut pas mettre Varane seul.
Stéphane,
okay,
Stéphane,
okay.
Est-ce que tu t'en rappelles quand je disais au début que je voulais pas voir Varane et que je voulais voir Konaté dès le début de la Coupe du Monde? Je le disais ou je le disais?
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Malik, je veux bien qu'on relâche les débats.
Donc maintenant, après, attends, Malik,
tu peux reprendre à quatre opposés tous les buts qui ont été encaissés par l'équipe de France. Je ne vois pas où est-ce que Varane est impliqué directement dans les buts. Tous les buts qu'on a encaissés sont des buts qu'on a pris de façon collective.
Donc Malik, tu vas me dire que...
Parlez-moi de Jules Koundé, mais pas de Varane, désolé.
Donc Malik, tu vas me dire que Varane a fait une meilleure compétition que Konaté? Même s'il a joué moins longtemps.
Konaté a fait une très bonne Coupe du Monde.
Varane a fait une meilleure, oui ou non, Malik, c'est simple. Est-ce qu'il a fait une meilleure?
Mais Varane a joué davantage de matchs que Konaté.
Mais même, tu le prends même sur les performances d'un seul match.
Chaque fois que Konaté est rentré, il a donné satisfaction, on ne va pas revenir là-dessus. Mais de là à remettre en question la titularisation de Varane dans cette compétition... Moi, je dis pas que c'est pour ça qu'on a perdu.
Ouais,
je suis désolé.
Aussi, je pense pas qu'on ait perdu la Coupe du Monde parce que
moi, j'ai pas dit qu'on a perdu la Coupe du Monde, mais ça aurait été déjà plus solide avec Konaté.
Non. Soyons honnêtes intellectuellement parlant, les amis.
Franchement, Varane, il m'a pas choqué. Varane sur cette Coupe du Monde, je l'ai pas trouvé mauvais.
Malik, je ne remets pas. Je ne remets pas en question la titularisation de Varane. Je pense que quoi, moi, de toute façon, je suis pas Deschamps, mais j'aurais très probablement fait la même chose. Mais simplement, je dis que il a perdu son pari. En fait, il comptait sur lui. Moi, je suis désolé. Je vais regarder ce que tu m'as expliqué pour Thuram. Je devais pas regarder à ce moment-là parce que ça m'a pas choqué. Sur Il y a un pénalty.
Ah, t'étais déjà parti, toi. Pourtant, on avait déjà perdu. C'était ça. En fait.
Ouais, je crois pas. Mais il y a. Les deux buts pris dans le jeu par l'équipe de France, je pense qu'il est impliqué sur les deux buts. Le dernier, notamment, il couvre tout le monde. Il fait un pas en avant. La première passe, je crois que c'est Messi qui fait à droite pour l'Argentin. Il est hors jeu. Il couvre tout le monde s'il y a hors jeu. Et je pense que la deuxième, j'ai le premier but là où il y a cette contre-attaque là avec un boulevard énorme au milieu de terrain.
Il y a pénalty, c'est tout. Je sais pas moi. En plus, c'est même pas lui qui fait la faute, c'est Ousmane.
Non, je parle du deuxième but d'Argentin, le but de Di Maria.
Pardon, c'est le milieu de terrain.
Ils sont tous en décalage.
Là, vous avez trouvé quelqu'un sur qui taper, mais
je pense qu'il a jamais, des trois défenseurs centraux, quand ils ont été sur le terrain, ça n'a pas été le meilleur. Le pari de Deschamps, c'est que ça soit le meilleur.
Tu sais ce que tu es en train de faire, Stéphane. Tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble exactement à ce qui est fait quand on attribue le titre de meilleur joueur à tel ou tel joueur. Tu fais une fixette dès le départ, avant même l'entame du match, sur un joueur. Et après, tu te croises les doigts, tu espères qu'il fasse une bourde, une tuile, pour tout de suite lui tomber là-dessus. T'es parti de l'idée que Varane n'était pas en pleine forme. Non. Et sachant que Konaté avait fait une très bonne entrée, tu t'es dit que Konaté devait tout de suite être titularisé. Les mêmes personnes qui disent ça aujourd'hui, si Konaté était titulaire dans ces matchs-là, qu'il avait fait une boulette, un CSC ou je ne sais quoi d'autre, vous serez les premiers justement à dire « Ouais, l'expérience compte, si tu l'as pris, c'est qu'il est en forme. Varane n'a pas joué une Coupe du Monde extraordinaire, mais je pense qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Et c'est parce qu'on a eu un bon Varane qu'on est aussi arrivé en finale.
Je suis d'accord avec Malik et je dirais, un peu comme Lloris, c'est important d'avoir une colonne vertébrale. Et Lloris, Varane, Griezmann, Giroud, avec Mbappé en facteur X, ça représentait la colonne vertébrale. Et on peut dire, dans le jeu, il n'est pas forcément au niveau de Varane de 2018, ça c'est évident. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un mec qui va cadrer la défense, qui va donner des conseils aux autres qui sont autour de lui, etc. Je pense que c'est important de l'avoir.
On a un mauvais Varane, mais
encore une fois,
si
t'as Konaté ou pas Mécano en défense et contre l'Angleterre tu fais une erreur ou contre la Maroc tu fais une erreur, on défonce tout le monde en disant ça va pas du tout, Varane aurait dû être là.
Mais moi, pour me défendre, Julien, pour me défendre...
Varane est mauvais, mais on arrive en finale quand même.
Non, pour me défendre, Malik, et pour prouver que tu dis n'importe quoi, excuse-moi, mon ami, qui a toujours de très bonnes analyses de foot, tu peux, Eladji va pouvoir te le confirmer lui-même, parce que quand il lisait Eladji ce qu'il disait, qui était le premier pour contrer ce qu'il disait et disait qu'il fallait faire jouer Varane, c'était moi. Donc jamais, à aucun moment, je me suis dit, quand il va être aligné...
On faisait ce débat. Parce que moi, je disais, je ne veux pas de Varane parce qu'il revient de blessure. Ouais, moi, je ne dis pas que Varane a fait une mauvaise Coupe du Monde. Non, il a été bon. Il a été bon dans la Coupe du Monde. Mais je pense qu'avec Konaté, on aurait été
meilleur. Mais Varane n'influence en rien le fait qu'on n'ait pas gagné hier. Donc, il faut arrêter, les amis. Varane n'influence en rien
la défaite d'hier. Tu vois quand Konaté est rentré ? Je te jure, j'étais beaucoup plus serein.
Non, mais en plus,
j'étais beaucoup plus serein quand Konaté est rentré.
Mais qu'est-ce que tu dirais de Jules Koundé dans ce cas-là ? Si tu parles de sérénité.
J'ai dit Koundé. Depuis le début, il n'a pas été serein, Koundé. Il n'a pas été serein, mais...
Mais parle-moi de Koundé, mais non. Pas de Varane, Malik, pas d'Upamecano, pas d'Hernandez.
Malik, toi, tu veux taper sur un joueur qui est là pour dépanner. Parce que normalement,
mais ça, c'est
normalement,
pas mon problème.
C'est pas Var qui aurait dû jouer.
Ça, c'est pas mon problème.
À droite, hein.
À ce moment-là, on dit plus rien.
Parce que Koundé l'a déjà testé à droite.
Oui, mais
il est juste catastrophique.
Il est catastrophique à droite. C'est ce que je disais.
Pavard n'est pas spécialiste non plus.
Pavard n'est pas spécialiste. Mais Pavard a déjà joué.
Regarde comment Di Maria a fait l'amour hier à Koundé.
En 2018.
Regarde un peu comment Di Maria lui a fait l'amour hier.
Il a tout fait. Mais je dis pas le contraire. Il lui a tout fait.
Koundé en plus par-dessus.
Parce que Koundé en plus de rien apporter offensivement, là même défensivement, le mec il était à la rue.
Non, mais moi je trouve que c'est dur surtout.
Vous me parlez pas de Koundé, vous me parlez de Varane, les mecs.
Non, mais c'est dur.
Intellectuellement, c'est un peu malhonnête.
Surtout sur le match d'hier, c'est dur de sortir un joueur en disant celui-là n'a pas été bon. Qui a été bon
à la fin du match,
dire les choses.
À la fin du match, moi, je pensais même pas qui a été mauvais.
Et t'es en train de me dire que Varane ou Koundé... Non, l'ensemble de l'équipe, il n'y en a aucun qui a sorti un ballon propre. Aucun qui a fait un bon contrôle, une bonne passe.
Je suis désolé,
donc on peut
Philippe,
me raconter ce qu'on veut. C'est ni Varane ni Koundé.
Le meilleur endroit où j'entends ce débat, c'est ici. Parce que
même le Griezmann, que j'adore hier, il est passé à côté.
Il était à la
même Griezmann que j'adore est passé à côté hier.
Alors,
c'est toute l'équipe qui était out.
Stéphane, il y a d'autres coups de cœur, d'autres coups de gueule sur ce mondial.
Oui, bien sûr. Des coups de cœur, il y en a un qui date de longtemps, peut-être on l'a oublié. C'est Al Owais, je sais pas comment ça se prononce exactement. Al Owais, le gardien de but de l'Arabie Saoudite. Énorme gardien qui a été notamment qui a fait un gros match contre l'Argentine en ouverture. Il joue à Al Ahly, un club en Arabie Saoudite, un championnat local. Je serais pas surpris qu'il ait quelques possibilité de venir en Europe au mois de cet été à condition qu'il ait envie parce que c'est pas vraiment au niveau de la culture et tout.
Non, je pense pas qu'il quittera l'Arabie Saoudite. Hein. Eux, ils sont très bien là-bas et ils gagnent bien leur vie, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il a fait une.
Peut-être pour un challenge sportif, peut-être.
Pour le challenge,
ils sont fous. Non, ils sont pas
dans la Champions League européenne.
Je parle pour eux.
Peut-être conseiller, parce que moi j'ai vu notamment quand il coûte Hervé Renard, c'est un peu ce qu'il souhaite. S'il reste là-bas, pour faire grimper l'équipe d'Arabie Saoudite, pour la faire encore progresser. Le but de réussir une Coupe du Monde, quoi. Là, si on peut considérer qu'ils ont réussi leur match, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui sortent et qui aillent s'aguerrir. On le voit maintenant dans les équipes africaines. Par exemple, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent dans les grands clubs européens et ça leur permet aussi de s'aguerrir. Alors peut-être, je ne sais pas, mais effectivement, je suis bien d'accord que pour qu'un joueur, un Saoudien, quitte le championnat local, c'est très très compliqué. Maintenant, on a peut-être oublié, mais moi, il y a un joueur qui reste, qui m'a plu, qui a été une des plus belles impressions de cette Coupe du Monde, c'est Moussiala, le joueur du Bayern et de l'Allemagne. Alors, c'est vraiment un coup de cœur sur cette Coupe du Monde. Alors, on a parlé du Maroc.
Donc, tu ne savais pas son nom au début.
Exactement, Moussala. Je l'ai reproché. Mais c'est vrai. Exactement, je disais Moussalia, je ne sais pas. Et Amrabat, effectivement.
Bah on le verra face au PSG. Hein.
Moussala,
on le verra, malheureusement, face au PSG. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Amrabat ou Unai, Hakimi, Bounou, au Maroc, ça c'est des vrais coups de cœur, cette
Bellingham,
équipe du Maroc.
Bellingham
c'est
aussi.
Bellingham, il était pas mal, mais on l'a quand même beaucoup moins vu, je trouve, contre le truc. Alors, bien sûr, énorme pas la peine de réagir avec des hurlements. Énorme coup de cœur pour Lionel Messi qui réussit une super Coupe du Monde, même si il a marqué 5 pénaltys, je crois, sur ses 7 buts. Oui. Il fait quand même 3 passes décisives et pas n'importe lesquelles, quoi.
Oui, et puis Stéphane, il marque en 8e, en quart, en demi et en finale.
Et il marque c'est facile de regarder ça de but en blanc comme ça. Mais excusez-moi, il marque le but décisif contre le Mexique qui change tout dans la compétition de l'Argentine. Et penalty, d'accord, mais penalty.
Pourquoi vous me tombez dessus?
Au-delà des penalties qu'il met, déjà il faut les mettre.
Il marque.
Non, mais déjà il faut les mettre. Et au-delà de ça, c'est toujours l'élément déclencheur sur ces matchs-là. Par la passe, par le but, c'est toujours l'élément déclencheur, moteur.
L'idée, c'est pas de remettre en question les qualités de Messi, hein, c'est pas le but du jeu.
Non, non, mais moi,
mon propos, c'est de dire quand même qu'il y a eu quand même quelques faveurs au niveau arbitral, c'est tout.
En tout cas, il marque en 8e, en quart, en demi et en finale. Voilà.
Sur penalty, ouais. Après, moi, énorme coup de cœur aussi, bien sûr, c'est quand même Kylian Mbappé. C'est pour moi, d'ailleurs, et pour la rédaction du quotidien du sport, et on a publié le classement dans l'après-midi là, sur l'ensemble de la rédaction, est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, devant Messi, qui a été nommé.
Oh, d'accord. Stéphane, tu viens quand au studio, Stéphane? Je t'en fous une bouteille de champagne. Là.
Non, mais il faut savoir, tu l'as peut-être pas dit, je ne sais pas si tu l'as dit, Philippe, mais 8 buts en Coupe du Monde.
Oui.
Il faut savoir que depuis 1970, Gerd Müller, il y a un seul joueur qui a réussi à marquer autant, c'est le Brésilien Ronaldo.
Absolument.
Qui, pour beaucoup, et s'il n'avait pas été marqué par les blessures, serait aujourd'hui le peut-être considéré comme un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, ou si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, et qui d'ailleurs s'est souvent un petit peu reconnu en Ronaldo, en Mbappé. Donc 8 buts, ça n'avait jamais été fait depuis. Mbappé, lui, il a marqué 8 buts. Maintenant, moi, j'ai aussi un gros coup de cœur pour Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, que avant même la Coupe du Monde, je ne comprenais pas.
Ça va te faire deux équipes hein, à force, hein.
Je ne comprenais pas pourquoi Deschamps l'avait pas pris dans sa liste. Je ne comprenais pas.
Oui, mais après, on peut refaire le débat avec Terrier, avec plein de joueurs. Hein,
non, bien sûr, c'est les coups de cœur de la rédaction et de moi en particulier. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été enchanté, malheureusement, Nkunku aurait fait certainement peut-être aussi bien, peut-être encore mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été enchanté de le voir rappelé finalement dans la liste. Et puis que ça soit ses entrées en jeu, même contre la Tunisie, ça a été un peu le moins mauvais des remplaçants.
Avec Konaté.
Ses entrées en jeu contre le Maroc, contre l'Argentine. Franchement, ça montre qu'il y a de l'avenir il y a un grand avenir pour l'équipe de France. Et bien, il y a aussi un énorme coup de cœur. Alors, on en a discuté ensemble, Philippe, souvent pour la montée en puissance du football africain.
Oui.
Je considère quand même sans parler que de l'équipe du Maghreb, que le Sénégal a fait une très très bonne phase de poule, perd en 8e contre l'Angleterre, qui était une des très bonnes équipes de cette Coupe du Monde, sans Gueye et Mané, donc qui n'étaient même pas là au début, mais qui sont quasiment leur, à part le gardien, peut-être quand il est en forme, c'était le meilleur joueur. Et bien sûr, pour le football asiatique, avec le Japon, qui a quand même sorti à lui tout seul, quoi, qui a sans même battu l'Espagne et éliminé à lui tout seul l'Allemagne. Ouais. Et alors, le premier donc, gros coup de gueule, j'en ai parlé aussi vite fait tout à l'heure, le Brésil, qui pour moi n'a pas su être à la hauteur. Alors là, je m'emballe peut-être un peu, peut-être. Hein,
non, c'est vrai, il plafonne le Brésil.
Il n'a pas su être à la hauteur de Neymar dans un match très compliqué contre la Croatie. Le numéro 10 de la CDSAO, lui, il a fait ce qu'il fallait. Il a été correct sur le match, hein, il n'a pas été très bon, mais il a été bon. Il a marqué le but. Il fallait simplement ou que les autres en fassent même un peu moins que lui, mais soient meilleurs que ce qu'ils étaient. Puis quand tu vois le niveau de ce Brésil, franchement, pour moi, c'est incompréhensible. Le jeu de l'Espagne, même Pep Guardiola, quoi, à Manchester City, il a compris qu'il lui fallait désormais un vrai numéro 9 pour gagner. Et surtout, il faut aller vers l'avant en foot.
Il a été viré, le sélectionneur.
Ouais. Là, ouais, exactement. Et en plus, il va dire après qu'il n'y a aucune équipe meilleure que lui en demi-finale. L'Allemagne, qui a perdu aussi, ça se rapproche un peu, même si ce n'était pas le même style de jeu, qui a perdu aussi faute de vrais buteurs.
Ils en avaient un, mais ils n'ont pas su l'exploiter.
Voilà.
Trop tard, à chaque fois.
Il s'est obstiné, Flick, à mettre Thomas Müller en pointe. Et puis surtout aussi, c'est passé un peu inaperçu, mais avec un gardien de but très, très, très loin de son meilleur niveau. Moi, je le dis encore ici, la défaite contre le Japon...
Bah, ça tombe bien parce qu'il est blessé, là. Il s'est blessé au ski, là. Ouais. Donc, il jouera même pas en Ligue des Champions.
Ouais. J'aurais aimé, moi,
qu'il joue... Mais dommage, que... j'espère qu'on va plutôt récupérer Neuber en face de nous que Bounou, comme il parle de Bounou au Real, parce que Bounou, c'est autre chose que le Neuer qu'on a vu à la Coupe du Monde. Où le but
Bounou est annoncé au Real ?
Il est, non,
au Bayern. Voilà, pas au Real. Ouais. Okay. Attention,
après, les polémiques, j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui.
Et puis, je sais pas si c'est un coup de gueule ou quoi, mais une incompréhension totale. On en a déjà beaucoup aussi parlé entre nous dans les précédentes émissions contre Fernando Santos et sa façon de gérer Ronaldo et le Portugal. Ronaldo.
Pourquoi Santos, ce serait pas l'inverse
Fernando Santos, il est catastrophique comme coach. Merci Stéphane de le relever. Fernando Santos, c'est la poubelle du football.
Au-delà de savoir s'il fallait le prendre ou pas le prendre ou quoi, ce qu'il fallait faire avec, les mecs, ils ont grandi ensemble, quoi, avec l'équipe. Hein, ils ont grandi ensemble avec l'équipe.
Oui, mais Stéphane, là-dessus, moi je mets un bémol quand même. Cristiano Ronaldo, est-ce que Cristiano Ronaldo ne gère pas mal sa fin de carrière? Parce qu'il a le même problème à United, il a le même problème en sélection.
Moi, je te dis,
est-ce que finalement, c'est le sélectionneur d'une part ou le coach de Manu d'autre part? Est-ce que c'est toujours les coachs en question? Est-ce que le problème viendrait pas de Cristiano lui-même aussi?
Non, j'ai pas aimé Malik. Excuse-moi, Stéphane, deux secondes. Malik, j'ai pas aimé comment t'as repris. En gros, c'est toujours la faute des coachs à croire que Cristiano ne s'est jamais entendu avec des coachs. C'est faux.
C'est pas la question, c'est cette année, la fin de carrière.
Mais je dis, c'est parce qu'il fait gagner. Hein.
Non, mais maintenant...
Il est très caractériel aussi, de ce qui en
ressort. Carlo Ancelotti en a témoigné il n'y a pas longtemps, ils ont dit, je ne comprends pas comment il y a des problèmes avec Cristiano Ronaldo, c'est un homme en or, il comprend exactement
tout ce qu'il jouait, oui.
Il veut, oui, il comprend quand on discute.
Tant qu'il joue, oui. Tant qu'il joue, il est en or.
Mais tu vois, Bernardo Santos, comment il a... C'est ça, Bernardo Santos ? Fernando Santos, comment il gère Cristiano Ronaldo, moi je pense aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème avec Eric Ten Hag, avec United. Il ne serait pas dans cette situation-là. Je pense que déjà, il aurait interprété différemment la chose. Mais il y a déjà ça. Du coup, tu vois, Malik, la question
qu'il a en méforme.
Tu vois, la question
qu'il a en méforme.
Mais il ne joue même pas à United.
À ça,
comment
l'âge...
tu peux dire un méforme? Tu vois, comme on dit, les joueurs,
quand tu
commences à prendre
de l'âge. Oui,
mais quand tu joues pas, tu es en méforme. Et on dit, quand tu commences à prendre de l'âge, Malik, tu es obligé de jouer régulièrement pour retrouver un niveau.
Mais c'est là où tu n'es pas honnête intellectuellement, mon cher Eladj. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Varane qu'il ne fallait pas faire jouer.
Mais parce qu'il est blessé, c'est pas pareil, je parle même pas d'âge.
Et Cristiano qui ne joue pas à Manchester depuis.
Mais il est blessé, Varane. Comment tu veux qu'il joue? Il revient de blessure.
Tu expliques que Cristiano. En plus, le truc, c'est qu'il a joué des matchs. Comme s'il rentrait tous les jours à 10 minutes de la fin. Il a joué des matchs, je suis désolé. Il n'a pas donné satisfaction.
Malik, arrête. Premier match, Malik, c'est lui qui va provoquer le penalty.
Comparativement à Messi.
Il commence un bon
mondial. Comparativement à Messi qui avait une vraie influence sur son équipe, Cristiano Ronaldo a perdu cette influence, il faut le dire.
Non, mais ce qu'il faut dire aussi, Argentine, tu vois les joueurs qui sont autour de Messi et les joueurs qui sont autour de Cristiano Ronaldo.
Déchu.
Non, mais attends, mais dis la vérité. Les joueurs qui sont autour de Cristiano Ronaldo et les joueurs qui sont autour de l'Argentine, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a même pas photo.
Non, mais c'est pas
ça. Même le banc portugais est meilleur que ceux qui sont titulaires.
Cristalise, ses amis.
Ah, on va pas
le problème, c'est ça.
Se mentir, non, mais...
Regarde le Portugal jouer sans Cristiano.
On peut pas gérer la même chose.
Comment les jeunes sont relâchés. Et regarde quand Cristiano est là. Il est cristallise.
Je pense que peu importe le choix qu'aurait fait Fernando Santos, qu'il l'aurait mis titulaire ou pas titulaire, en cas de défaite, il aurait été critiqué de la même manière. Et on dit que, beaucoup disent que c'est un mauvais coach, mais il est souvent comparé à Deschamps parce qu'il a eu des résultats plus que d'autres coachs avant lui. Alors on peut dire qu'il a une meilleure génération, etc. Mais en attendant, il a été soutenu pendant un bon moment. Et cette gestion du cas Cristiano, on en parlait déjà nous avant, on savait que ça allait être compliqué. Le match précédent, la Coupe du Monde, le Portugal fait un super match sans lui, exceptionnel, et les buts sont vraiment magnifiques, etc. Prendre cette décision-là, elle a porté ses fruits en quart. En huitième, tu peux te poser la question mieux avec, mieux sans. La réalité, c'est que le Portugal n'était pas bon ce jour-là.
Vous allez me dire qu'un sélectionneur, dans sa tête, il n'a pas envie de se qualifier avec ou sans Cristiano? Je pense qu'il choisit la meilleure équipe possible. Donc si Cristiano, s'il estime que Cristiano peut faire qu'il gagne, il mettra Cristiano. S'il ne le met pas, c'est qu'il estime que l'équipe est meilleure sans Cristiano Ronaldo.
Malik, je te parle d'un truc.
Non, mais c'est Stéphane qui voulait réagir d'abord.
Mais il va réagir après.
Mais tu vois, Malik, je te le dis, Santos, il a une équipe. Il a Cristiano Ronaldo qui arrive en fin de carrière. Tu vois, juste, comme on disait, inimaginable. C'est inimaginable que Messi soit sur le banc, quoi qu'il arrive, hein, que les performances qu'il fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est impensable qu'il ne joue pas. Avec le PSG, il a marqué 4 buts toute la saison, il était dégueulasse. Avec l'Argentine, il était titulaire indiscutable. Cristiano Ronaldo a mis les 4 buts en ce début de saison, il joue avec le Portugal, excuse-moi, c'est sa dernière Coupe du Monde, tu sais que c'est un grand joueur, il a la hargne des grands matchs, il a toujours été au rendez-vous. C'est le joueur. Non, mais attends, laisse-moi terminer, Malik. C'est le joueur des grands matchs. Il n'y a personne qui a été aussi décisif dans les grands matchs que Cristiano Ronaldo.
La différence entre Messi et Cristiano, tu ne peux pas ne pas le mettre en quart de finale. Messi joue avec ses partenaires. Cristiano joue tout seul.
Et surtout, l'Argentine a plus besoin de Messi que le Portugal n'a besoin de Ronaldo.
C'est sûr, Julien.
C'est ça qui
quand
fait
une génération avec
Leao,
Joao Félix, Guerrero, mais t'as des joueurs.
On l'a dit et redit. Le banc portugais est incroyable. Aujourd'hui, les titulaires sont incroyables. Le banc est incroyable. Le choix ne se pose pas de la même façon.
Moi, je pense que CR7 a fait son temps.
Et Messi a 2 ans de moins que Cristiano.
Bon, Stéphane, pour finir, il y a un but coup de cœur.
Non, le but coup de cœur, pour moi, il y en a 2.
Oui.
Il y en a trois.
Attention à ce que tu vas dire, Stéphane. Je suis concentré là.
Il va dire Richarlison.
On a tous un but coup de cœur et un match référence. Bon, le match référence, c'est la finale.
Non, c'est vrai. Il y a celui de Richarlison, bien sûr, mais il y a moi, celui de. J'ai vu la tension qu'il y avait dans le match. J'ai bien aimé celui de Casemiro avec le Brésil.
Oui.
Celui de
Hernandez et Mbappé aussi.
De celui de Mbappé en finale et celui de Julian Alvarez là après le slalom
et Vincent Aboubakar non
pour moi c'est le plus beau c'est celui de Messi de Alvarez
bah tu vois
mais celui de
Aldo tu te laisses influencer encore une fois par des noms ronflants alors qu'un joueur ordinaire peut marquer le but du siècle, Vincent Aboubakar marque un super but pour moi c'est le top 2 après Richarlison
pas tous en même temps vous entendez pas là
ouais. T'as certainement le meilleur défenseur de la Coupe du Monde qui est là et t'as une action pour moi qui vient de la planète Mars qui est exceptionnelle, quoique très très peu de joueurs dans l'histoire du foot sont capables de faire. Je trouve ça extraordinaire, donc c'est pour ça que c'est plus beau. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur le truc Ronaldo. Quand je dis Fernando Santos, là pour répondre notamment à ce que disait Julien et tout, je trouve que Fernando Santos a perdu complètement les pédales là. C'est-à-dire que ce que je veux juste dire, je dis pas que moi j'étais pas particulièrement pour qu'il fasse, mais j'avais annoncé que ça serait le boulet du Portugal, Ronaldo, il fallait qu'il arrive à gérer Ronaldo. Quand tu prends Ronaldo, effectivement, tu dois peut-être te dire, je vais avec lui, je vais aller mourir avec lui s'il faut, mais je vais avec lui. Tu ne le prends pas pour dire, ah ben finalement, je l'ai pris, mais l'équipe, elle joue mieux sans lui. Et je rappellerai juste que Messi, comme on disait, Lionel Messi, là, à la Coupe du Monde, il fait un début de saison exceptionnel avec le PSG. Mais la saison dernière, il fait une saison pourrie. Et même s'il fait une finale assez médiocre avec l'Argentine, il fait quand même gagner la Copa América à l'Argentine, quoi. Donc, le sélectionneur, il a été avec lui jusqu'au bout. Il a été avec lui. Je pense que Fernando Soto, c'est ça que j'ai pas compris, moi. C'est que c'est son ami. D'ailleurs, la femme de Ronaldo, c'est ce qu'elle a tweeté. Hein. Ton ami, en gros, elle a pas dit le mot trahison, mais ton ami t'a trahi, ton ami t'a lâché. Il a été avec lui tout le temps. Il prend, on va penser qu'il va mourir avec lui, même si on lui reproche. Mais finalement, il change. Il change d'optique. Et c'est ça qui est.
S'il est là encore, Santos, depuis
un grand sélectionneur s'adapte.
Merci Stéphane.
Voilà.
En tout cas, ça a été un bon mondial. On s'est régalé. Hein.
Stéphane.
Je voulais aussi. Ouais.
Oui. Stéphane, s'il te plaît.
Pour vous remercier vraiment à tous là. Oui. D'abord à la radio Montpellier FM d'avoir accueilli le quotidien du sport pour les directs TV qu'on a fait ensemble. Merci à Malik, très très vraiment un plaisir énorme d'entendre ces
mais c'est pas fini hein, commentaires. Parce que je vais te recommander quelque chose.
Ouais, et c'est vraiment super intéressant. Abou, pareil. Elhadj, pareil. La fougue, un peu fougueux des fois.
C'est la passion.
comme tout. Parfait. Comme tout Julien là pour les émissions du lundi, puis tous ceux qui étaient là.
Et puis Eric aussi qui est pas ce soir mais qu'on salue. Hein
voilà, Eric.
Ou quoi, Eric
et puis
il y en a plein qui sont venus, tous ceux qui sont venus, je me rappelle même plus les prénoms de tout le monde, mais
nous on s'en
rappelle.
Il y a Guy, Étienne, le chanois, Étienne.
Étienne, deux matchs de défaite.
Chanois, c'est vrai.
On a perdu face à la Tunisie hier, à chaque fois qu'il a été là.
Et un grand merci à Daniel aussi pour qui est donc le
qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui.
À défaut du à défaut du champagne avec l'équipe de France, on l'a bu ce soir.
Hein. Ouais, ok, bah, bon anniversaire, Daniel. Voilà, ouais. Et puis vraiment un grand merci parce que, non, mais franchement, bah, rencontrer oui, plaisir, des gens comme ça, comme à la radio, mon Paris FM et tout, c'est vraiment hyper appréciable et tout. Ça vaut bien une, ouais, une victoire en Coupe du Monde.
Bah, oui.
Alors, une seule recommandation, s'il te plaît, Stéphane.
Oui.
Essayez de regarder le but de Vincent Aboubakar dans sa continuité, s'il te plaît. Merci.
Ah, ok, allez.
Et bon rétablissement, Stéphane. Ouais, surtout, bon rétablissement. Stéphane, bon rétablissement. Et franchement, Stéphane.
Il a l'air malade, là, franchement.
Bon, un peu.
Il est en Argentine, là,
il pèse la forme.
Stéphane, tu nous as manqué quand même sur la finale.
C'est vrai.
J'aurais aimé voir tes émotions. J'aurais aimé voir vraiment pour. Voilà, franchement.
Surtout quand Giroud est sorti à la 40e, je me suis tourné vers là où t'es assis habituellement. Il est où?
Franchement, tu nous as manqué. Ouais. Et on espère vivre encore d'autres.
Il y aura l'euro bientôt. Hein. Voilà. Bientôt, ouais. Allez, fraîche ouais, à bon
vous, l'euro, Elad, l'euro ou Abou, on va le gagner.
Oui,
bah,
oui,
moi, c'est sûr. Ce que j'ai dit.
Il n'y a pas de raison.
Ah, mais Elad a pronostiqué Inch'Allah. Déjà hein, ouais, le ouais, devant. Il a dit qu'on ne sortirait pas des poules. Hein.
Non, allez, t'inquiète.
Merci Stéphane. On envoie la pause musicale, la deuxième, fraîche la douille, Yendi. Et ensuite, on se retrouve pour faire le bilan de ce mondial. Yendi. Voilà.
Yankli. Yankli.
Dans la fiction, j'en ai la conviction. Mon ambition c'est d'être performant dans toutes les conditions. Les yeux ont trop vu de ça, j'ai conditionné. Mal positionné, j'ai select dans le temps additionnel. Qu'est-ce que ça veut dire visionnaire? Vu que demain ça se trouve, je peux guérir d'une tumeur, mais mourir de la gastro. Pour pas penser, je me gastro. Plus qu'un RS3, le sang qui reste froid, les couilles qui restent pro. Ne t'en fais pas, tu poses le front, tout est supportable. Crois-moi qu'un sort d'âme, c'est plus dangereux qu'un port d'âme. Je suis à part, comme ma ville, son architecture. Ils savent déjà que c'est lourd, même avant d'appuyer sur lecture. Et comme nos pères, on reste dur, l'âge nous adoucira. Un chemin poussiéreux, que le talent raccourcira. La terre est vaste, mais le monde est petit. Et à chaque liasse de mille, je prends un billet pour faire un pli. Je prends un billet pour faire un pli. Quand je recompte, je revois toutes les tétés en clé. J'ai la dalle, je la coupe comme un bâtard. Avant qu'il poucave, qu'il m'envoie là-bas. J'ai fait du mal, salit le cœur des miens. Maintenant faut que je le nettoie. Je suis déjà au ch'tard, ça me ramène des peines. D'où je reviens, c'était noir. Je prends un billet pour faire un pli. Quand je recompte, je revois toutes les tétés en clé. Je recompte, j'ai plus le temps. Je dois faire gonfler ma liasse. L'ancien m'avait dit que si tu perds ton temps, fallait trouver du taf. Sur le terrain, pas de pause, quand ça pète, c'est scellé. Tu me connais bien, je recale bien mon DJ, même les menottes serrées. C'est comme la détention, t'as des gens qui patientent, qui sont pas libres. Y'a des affaires pas chères, même dans tes yeux, je l'ai vu que c'était pas net. Ils parlent de brolic, mais quand y'a Haja, je te vois pas, tu paniques. Ils pêchent toute l'année, je les entends dire qu'ils transportent que palette. Tu confies pas le méchant, si tu connais pas les gens. Ça s'allume, ça dit que c'est léger. Ici, pour moins de DJ, ils peuvent briser tes jambes. Je démarre la cime, je les entends qui chuchotent à mort. Y'a des mecs qui bronzent à la mer, pépère, d'autres en cavale et qui préparent ta mort. J'ai fait du sale, je sais même plus où j'étais. Sur moi, y'avait plus de 5 étoiles. Cet été ferme pour le frérot parce qu'ils ont cramé que c'était toi. La poisse nous colle ensemble, on a su faire ce qu'il faut. Y'a trop de crypton que j'ai fait kiffer. Tu sais que j'ai pas tout fait, mais y'a toujours ce qu'il faut. J'prends un billet pour faire un play. Quand je recompte, je revois toutes les têtes en clé. J'ai la dalle, je la coupe comme un bâtard. Avant qu'il me poucave, qu'il m'envoie là-bas. J'ai fait du mal, salit le cœur des miens. Maintenant faut que je le nettoie. J'suis déjà au ch'tard, ça me ramène des peines. D'où je reviens, c'était noir. J'prends un billet pour faire un play. Quand je recompte, je revois toutes les têtes en clé.
Voilà, alors toutes mes excuses, hein, j'avais pas bien lu mes notes, donc c'est Yankli, c'est ça hein.
Yankli.
Yankli, voilà, ok. Yankli, hein, il y avait eu Orelsan, qui est devenu Orelsan, et il y a donc Yendi, qui est devenu Yankli. Voilà, on y arrive. Bon, c'est bien.
Et le joueur allemand, là, il s'appelle
voilà.
Comment
Grip. Voilà.
Bah oui. Qui rentrait, qui marquait à chaque fois.
Full Crook.
Voilà, Full Crook. Il y a qui s'est prononcé. Voilà. Bon, messieurs, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur le mondial. On a eu un super mondial. On peut avoir aussi quelques coups de gueule. Hein. tabou avec le geste de l'Argentin hier qui est monté sur le podium. C'est pas beau, hein.
Ouais, mais moi je l'avais dit.
Oui,
moi,
tu l'as dit, mais c'est bien.
Je l'avais signalé en direct à la radio. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi que ça avait interpellé.
Non, il y a tous les médias qui l'ont pris.
Mais c'est un geste, mais c'est obscène, c'est choquant, c'est insultant, c'est dénigrant. Tu
fais pas ça. Devant des milliards de personnes.
En plus, devant un responsable qatari. Ben oui, il y a des gens qui t'accueillent dans leur pays. Toi, tu viens.
Mais c'est pas contre les Qataris, apparemment, c'est contre les Français qui l'auraient, paraît-il.
Ouais, parce que les Français, il a dit que on était une équipe chambreuse.
C'est le gardien, mais il a récidivé dans les vestiaires. Ouais, hein, il a fait une minute de silence pour Mbappé.
Il a déjà fait le même geste il y a deux ans quand il a gagné la Copa. Ouais. Et sur ce qu'il chante sur Mbappé, là, faut pas se tromper non plus. C'est des chansons plutôt habituelles chez les Argentins. Quand ils gagnent des matchs contre les adversaires, ils les charrient de cette manière-là. Et c'est pas aussi violent que ça peut le laisser penser.
Mais c'est détestable
quand même. Faut faire attention quand même.
Il y a Agüero qui insulte Camavinga de tête de bite dans le vestiaire. Les mecs, il y a un moment donné.
Il a un problème de cœur. Il a un problème de cœur. Circonstance atténuante.
Il a rien gagné. Il a rien gagné.
Bah qu'il arrête d'insulter les gens parce que son cœur il va s'arrêter plus vite que prévu. Il connaît pas les marabouts togolais là-bas.
Qu'il appelle Pogba surtout.
Alors le plus beau, les coups de cœur, coups de gueule, les plus beaux buts.
Moi je vais faire mon coup de gueule. Rapidement. Oui, parce qu'on va bientôt finir.
On a encore un peu de temps.
Et moi mon coup de cœur, franchement, c'est mon coup de cœur, franchement, c'est Malik, il l'a dit. Du coup, je vais pas dire le but d'Aboubakar parce que je vais le laisser le dire. Mais après, le but de Richarlison, rien à dire. Mais sinon, moi, le but de Kylian Mbappé, il m'a fait vibrer. Oui, le deuxième, la reprise de volée, dès que la balle allait en l'air, il voit comment elle arrive. Moi, je me dis tout de suite, il va contrôler ou quoi. Non, il se lance en extension. C'est pas facile. C'est la 82e minute. C'est une finale de Coupe du Monde. Et il la met au fond. Franchement, moi, je pense que c'est mon coup de cœur.
Oui.
Mon coup de gueule, c'est le nombre de pénaltys sifflés pour l'Argentine.
D'accord. Julien, toi.
Le coup de cœur. Alors pour changer un peu au niveau des buts, j'ai beaucoup aimé celui de l'Argentine hier, le deuxième, très collectif.
Je
trouve, c'est pas celui forcément le plus beau dans la finition, mais en tout cas en construction, c'était quand même vraiment pas mal. Coup de gueule. J'en ai pas tant que ça parce que je trouve que cette Coupe du Monde a été vraiment pas mal du tout. Il y a toujours des petits trucs à redire à droite à gauche. Le coup de gueule pour les boycotteurs jusqu'à la demi, parce qu'après plus personne n'a boycotté. Absolument. Et puis ils se sont trouvés plein d'excuses. Ouais. Et pour tous ces politiques comme Hidalgo qui est tous les week-ends au Parc des Princes aux côtés du prince du Qatar et qui boycotte la Coupe du Monde, voilà, je pense que c'est pour eux le coup de gueule parce qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle à tous les niveaux et c'est assez triste de voir ça.
Coup de cœur, moi, c'est pour la Coupe du Monde en elle-même au Qatar, parce qu'il y a eu pas mal de critiques au départ, surtout 10 ans après qu'on l'ait octroyé au Qatar. On a trouvé que 10 ans passés, on n'avait rien eu à dire. C'est à 2-3 mois qu'on est revenu, donc coup de cœur pour cette Coupe du Monde au Qatar. Je n'ai pas été, mais de ce qu'on entend, ça a été très bien organisé et tout le monde a été bluffé. Après, mon coup de gueule, c'est au niveau de l'arbitrage. Surtout dans l'utilisation de la VAR, je comprends toujours pas comment est-ce qu'on utilise cette VAR. Il va falloir qu'on nous explique clairement quelles sont les règles par rapport à cette VAR.
Tiens, on parlait de l'arbitrage. On a quand même Stéphanie Frappard et puis Clément Turpin. Ça, c'est quand même à signaler. On l'a dit dans nos directs, hein, mais c'est bien. C'est une belle reconnaissance de l'arbitrage français qui est souvent décrié. Ça a été la première femme en plus à arbitrer un match de Coupe du Monde.
On devrait avoir plus de représentants au niveau du corps arbitral, selon moi.
Moi, mon coup de cœur, le but d'Aldaoussari contre du Saoudien contre l'Argentine, le deuxième but, il est tout simplement phénoménal. Il arrive à un moment où on a l'impression que tout peut changer dans ce match. Ça fait 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Ça offre la victoire et le but, il est juste splendide, enfin selon moi. Coup de gueule contre les journalistes français, de Jacques Vendroux à ceux de BFM TV qui critiquaient. On a le droit d'avoir des coups de gueule. Même dans une famille, on se dispute. Ouais. De Jacques Vendroux aux journalistes de BFM TV hier qui critiquaient la tenue qu'on avait mise sur le dos de Messi. Bah voilà, mon coup de gueule, c'est un peu pour ces journalistes français. On en a marre. Vous êtes toujours rabat-joie, les journalistes français. On est fatigués. Sortez un peu de vos clichés.
Surtout que
de
Messi lui-même
soir.
N'avait pas l'air de s'en plaindre.
Hier, ça disait qu'il portait un rideau sur le dos, etc.
J'ai entendu sur RMC quelqu'un parler de peignoir.
Ouais, sur BFM aussi, de rideau, etc. Donc, coup de gueule, c'est ça.
Je pense que ce qui a fait augmenter la cote de la France et ce qui a donné l'Argentine favori, je pense que c'est les journalistes français. Voilà.
Nous, on était frileux. Hein.
Moi, j'aime pas dire français. Je dirais la presse internationale parce que c'est pas les seuls à critiquer. Forcément, nous, on voit plus ce qui se dit en France.
Vous voyez, nous, on voyait ce que les journalistes argentins mettaient ou publiaient. Les journalistes argentins, on voyait. Eux, ils étaient plus dans la confiance. Ils essayaient de les mettre en confiance. Oui, on va la gagner, cette étoile. On va les truquer, etc. Nous, on était comment ? Oui, l'Argentine est favori. Voilà, mais il faut faire attention, truc. Bah, C'était ça. La plupart des journalistes, du coup, voilà.
Alors, c'est une Coupe du Monde où on a marqué en tout cas le plus de buts. Hein. Ça a été la Coupe du Monde la plus prolifique. 172 buts, ça fait 2,69. C'est mieux pour un seul but que la Coupe du Monde en 98 et en 2014. Et il y a eu 120 buts donc en phase de poule.
Et on dit merci à Mbappé. Hein.
Oui, bien sûr, on a eu 222 buts, 3,47, donc 222 cartons jaunes, pardon, avec donc une moyenne de 3,47 par match et seulement 4 cartons rouges, donc indirect. Voilà. Donc ça, c'est quand même un fait quand même un peu important d'avoir très peu de cartons rouges. Hein.
Oui, c'est à souligner. Après, je pense que les consignes ont été d'y aller doucement parce qu'il y a des matchs où ça aurait pu partir très vite. Oui. Et effectivement, ça aurait un peu gâché le spectacle, donc on n'est pas mécontent là-dessus. Mais il y a quand même, ça pose un problème sur le plan sportif malgré tout.
Alors, meilleur buteur, Mbappé, 8 buts, devant Messi, 7. Meilleur passeur, Lionel Messi, devant Mbappé et Modric. Meilleur gardien, Emiliano Martinez. Hein,
le détestable Emiliano Martinez.
Le copain d'Abou.
Il est rentré dans mon top 5 des personnalités que j'étais le plus au monde. Et il y a Luis Suarez juste devant lui.
Voilà. Ensuite, meilleur jeune, c'est Enzo Fernandez, l'Argentin.
Mérité.
Le fair play a été attribué à l'Angleterre, messieurs. Ah ouais. Et puis, chez les passeurs, il y a Harry et Ken, Messi, Perišić et Griezmann.
Non, mais il est fair play, Ken. Il a tiré au-dessus et il les a fait passer. On peut leur accorder ça.
Non, mais ça, c'est le passeur. Hein. Mais, c'est peut-être pour ça que les Anglais ont été récompensés. Et Alphonso Davies, le Canadien, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. 68 secondes.
Prometteuse sélection, les sélections canadiennes.
Ouais, c'est ça. C'était le match contre la Croatie. Et puis, il y a eu aussi côté français beaucoup de records. Hein. Loris qui bat le record de sélection, 145.
C'est ça, Giroud qui bat le record.
53 buts, meilleur buteur français.
Griezmann.
Et puis Griezmann, meilleur passeur. 28,
et même
28. 28
passes. Et il y a même une autre. L'équipe qui finit le match contre l'Argentine, c'est l'équipe. En Coupe du Monde, qui avait le moins de sélections moyennes. Ils étaient à 15 sélections si on enlève Hugo Lloris. En moyenne, c'est 15 sélections sur les joueurs qui ont fini le match contre l'Argentine pour une finale de Coupe du Monde, c'est inédit.
Et puis, on aura beaucoup, beaucoup de joueurs qui terminent leur carrière à travers cette Coupe du Monde. Je crois que c'est la Coupe du Monde la plus importante. Il y a au moins une trentaine de joueurs qu'on ne verra plus dans
des joueurs majeurs. En tout cas, des joueurs majeurs, Modric qui Modric rempile.
On peut les prendre, les
Messi rempile, Cristiano n'a pas dit son dernier mot.
Cristiano, je pense que c'est fini.
Il prend 4 ans.
Il rempile, mais pas pendant 4 ans. Il rempile pour quelques matchs.
Mais s'il l'a dit, pour la prochaine Coupe du Monde.
Mais s'il l'a dit, c'est pour pouvoir exhiber ce maillot avec 3 étoiles un peu devant son public. Modric, il va jouer la finale, enfin les derniers carrés de la Ligue des Nations. Peut-être qu'il continuera jusqu'à l'Euro, mais pas la prochaine Coupe du Monde.
Il vaut mieux en tout cas qu'ils terminent bien leur carrière, parce que si c'est pour pourrir les vestiaires,
on
parle de soi au passé, et moi je les réserve.
Je crois qu'il y a une trentaine de joueurs.
Il y en a beaucoup qu'on reverra pas.
Il faut que ça va partir.
Dani Alves, on en a oublié, Suarez, enfin d'autres.
Oui, mais attention. Comme dit Malik, attention, parce qu'un Daniel Alves, on pouvait dire il y a 4 ans, c'était sa dernière, comme d'autres.
Il a pris 4 ans de plus depuis. Hein.
Oui, mais personne pensait qu'il y serait.
Thiago Silva,
tiens. Voilà. Alors, Abou, il n'y avait pas que quand même la Coupe du Monde. Hein. Donc, on va parler un petit peu du national, 16e journée.
Ah, bah attends, on change de niveau là. Bon,
le dernier. On est là pour tout.
On parle de nos amis là.
Bah oui,
Le Paris 13 Atlético qui a perdu contre
encore
Versailles.
1-0 dans le derby.
Encore une défaite. Hein, Versailles,
c'est l'annoncer, je sais pas, mais je m'en doutais.
On en parle. Hein.
Versailles qui reste deuxième de national et le Paris 13 Atlético 15e à 3 points du maintien.
Oui, le Red Star n'a pas joué à Cholet, match reporté. Donc Concarneau 30 points en tête. Effectivement, Versailles 29 points, deuxième. Et le Red Star est quatrième avec Dunkerque, 26 points.
Ça, le Red Star de Habib Bey.
Ouais. Et le Paris Atlético 15e, c'est-à-dire
c'est ça, 15e à 3 points de la 12e place, qui est une place qui fait qu'on n'est pas relégué.
Habib Bey, d'ailleurs, son nom circule chez certains tabloïds sénégalais pour la sélection. Mais je pense que ça va être prématuré, parce que le garçon a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il prend le temps d'apprendre son métier.
Ouais, il est réfléchi.
On a envie de le voir en club. On a envie de le voir en club. En tant que consultant, il est excellent. Je pense que tout le monde est unanime. C'est rare que tout le monde le trouve un
Il est tellement
un personnage
excellent.
De média.
Que les défauts, on les trouve sur son excellence. Il est vraiment bon. Ouais. Tellement il est bon, c'est qu'on... Ah. Les gens, ils sont dit, ouais, non, il est trop bon, c'est pas normal. Non,
c'est rare. Aussi, pas aussi bon que Philippe. Hein.
Donc maintenant, c'est la trêve.
Gorel sort.
Pour le national, oui, voilà, c'est ça. C'est la trêve, donc, pour le national. La reprise, je crois que c'est courant janvier.
Courant janvier,
voilà,
c'est ça.
Allez, les féminines, cinquième journée de Ligue des Champions. Ça va mieux pour le PSG, battu 2-1. Qui a battu le Real 2-1 avant le match Chelsea-PSG donc, de cette semaine. Chelsea en tête avec 13 points, devant le PSG, deuxième 10 points, troisième Madrid 5 points et quatrième Schroeder 0 points. Ça va mieux, Julien, pour le PSG. Hein.
Ça va mieux, déjà le match précédent, on était rassuré. Ouais. À la fois pour Paris et à la fois pour Lyon. Ouais. Et là, elles gagnent 2-1 contre le Real, c'est quand même une belle perf. Et bon, elles sont sur la voie pour se qualifier.
Et aussi, ça va mieux aussi pour Lyon, qui a gagné Arsenal 1-0. Avant, donc, Lyon-Juventus-Turin de cette semaine. Donc là aussi, Lyon en tête avec Arsenal 10 points, ça va beaucoup mieux. Troisième Juventus 8 points et quatrième FC Zurich 0 points.
Bah, c'était le match un peu inquiétant pour Lyon, puisqu'à l'aller, s'était fait balader par Arsenal, ce qui est rare pour être souligné. Et là, effectivement, ils se sont remis en place pour leurs objectifs. Donc, on est ravis. Effectivement, j'avais des doutes, moi, là, il y a quelques semaines. Et je suis rassuré par ces différents
résultats. Alors, c'est la trêve aussi chez les filles. On va rappeler que le PSG est en tête avec 29 points. Devant Lyon, 28. On en avait parlé la semaine dernière à l'issue du match entre Lyon et le PSG. Et troisième, le Paris FC, 21 points.
Lyon qui a été racheté par Textor aujourd'hui.
Oui, ça y est,
rachat officialisé. D'accord, okay. Jean-Michel Aulas va quitter
définitivement. Il n'aura pas des actions.
Normalement, dans les accords initiaux prévus, il devait rester 2 ans ou 3 ans à la tête du club
en tant
que président.
Il y a eu un truc accéléré entre. Il y a eu une discussion accélérée entre Textor et l'OL.
Bah, tu me l'apprends et je suis un peu inquiet.
Mais je dirais plutôt que c'est une très bonne nouvelle parce que ces dernières années, Jean-Michel Aulas, il manque d'inspiration.
Et c'était soit il part en fait et soit l'accord est capoté.
Pour moi, c'est un peu toujours le même débat. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on a derrière. Textor, il y a eu quand même un laps de temps assez conséquent. Depuis cet été, on attend quand même ce rachat. Il a été repoussé 3-4 fois. Je ne suis pas rassuré, personne.
Dans l'absolu, je suis un peu d'accord avec toi, mais je vais dire aussi qu'il faut savoir partir. C'est que lui-même, il sent qu'à un moment donné, il prend de l'âge. Ça, c'est un. Deux, si tu regardes bien, c'est 3-4, voire même un peu plus, dernières années. L'inspiration au niveau de l'OL.
Il y a 5-6 ans, quand on avait l'impression qu'il allait laisser place à Tony Parker ou à un autre. Qu'il aurait eu le temps de préparer pour ça. Oui, d'accord, mais je veux dire, il y avait une solution un peu interne, dans le sens où des gens proches de lui qui vont prendre la relève en ayant déjà les bigs qu'il aurait mis en place et qu'il aurait aidé à être intronisé. Là, on passe du tout au tout, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, effectivement, Textor a les moyens. Il a plusieurs clubs, mais c'est assez flou. On ne sait pas trop si les résultats sont là ou pas.
Je pense que ça va ressembler un peu certainement à l'OM. Hein.
Mais voilà, c'est...
Colonie capitale.
On va voir ce que ça donne. Pour les prochains mois, Julien. Voilà. Allez, un petit mot de basket, 13e journée. Là aussi, c'était un derby. Ça s'est moins bien passé pour le Paris Basket. Battu assez largement. 91-71 pour Boulogne-Levallois.
Qui enchaîne une troisième défaite consécutive. Hein, en élite, la deuxième consécutive. Et il y a l'Euro Cup où ils ont perdu contre Promiteas. Le Paris Basket, en tout cas, là, qui n'est pas très bien classé.
Non, ils sont 15e avec Fos-sur-Mer, Le Portel et Pau-Orthez avec 30,8%. Donc, ils partagent la dernière place.
Ça va jouer le maintien comme l'an dernier.
Ouais. On va rappeler que l'équipe fétiche d'Éric Nanterre est allée gagner à Bois, 73-71. Et c'est Monaco-Levallois qui sont en tête, 76,9%. Alors que l'équipe de Nanterre est en milieu de tableau avec Le Mans, donc 8e à 46,2%. Alors, il faudra toujours savoir pourquoi on fait des pourcentages dans le basket. Hein. Faudra un jour demander aux responsables du basket pourquoi ils font
tout n'est pas toujours clair là-bas. Hein.
Ouais. Et puis, en volley, 13e journée, le Paris volley, lui, par contre, a gagné à Toulouse 3-1.
C'est ça, contre Toulouse.
Excusez-moi de venir casser l'ambiance, le truc. Ouais. Voilà. Il n'y aura pas de défilé finalement aujourd'hui. Hein.
D'accord.
Il n'y aura pas de défilé. Les joueurs voulaient rentrer directement chez eux.
C'est un petit peu la cacophonie là.
Voilà. Et du coup, on les a laissés rentrer chez eux.
Bien.
Et il y a une nouvelle stat qui vient de sortir. Petite polémique, peut-être qui va faire polémique, qui vient de sortir. Et c'est le but de l'Argentine. Le troisième but de l'Argentine aurait dû être refusé parce qu'il est toujours un remplaçant sur le terrain.
Ouais,
avant que la balle franchisse la
ligne.
Oui, c'est mort, mais c'est quand même.
Alors, le volet, donc 13e journée, on parlait de la victoire de Paris.
C'est ça, Paris qui se retrouve 8e et qui a la
avec
possibilité.
Avec Montpellier, 19
c'est
points.
C'est ça, ouais. Avec 19 points, à 3 points de Tourcoing, à 6 points de Narbonne. On peut aller jusqu'au bout. Hein. Tours qui est premier avec 32 points, Chaumont 2e avec 29, voilà, bon. Ouais. Et Nantes 3e avec 27 points. Voilà. En tout cas, les Parisiens qui peuvent se qualifier pour les quarts de finale, pour l'instant, qui sont, qui peuvent se qualifier pour les playoffs pour l'instant.
Et le club francilien, bah, c'est le Plessis Robinson, battu par Nantes 13e 3-1. Alors eux, ils sont 12e avec Toulouse avec 12 points. Ils devancent le dernier, donc Cambrai, qui est 14e avec 7 points.
C'est vraiment l'émission du sport ici.
Bah oui, hein, c'est le but.
De la Coupe du Monde au volet, fouf.
Ah ben bah, c'est ça, hein. Voilà. On était en configuration mondiale. Merci messieurs, ça a été un plaisir. Hein. Merci Malik.
Merci ouais. Phil. Merci.
Il n'y a pas d'émission les deux prochaines semaines. On prend un peu de vacances.
Ouais, on prend un peu de vacances.
On revient le 9 janvier.
Et puis suivez Week-end Africain.
Oui, c'est bah, bien sûr.
Ça vaut tous les cachetons.
Oh, il fait sa pub. Voilà. Oh là là.
Salut à vous.
Bah, salut Philippe. Voilà. Et suivez Politiquement Vôtre, c'est important.
C'est bien.
Une très belle émission à la radio. Comme chacun fait sa pub.
C'est bien.
Animé
bien.
Par un jeune journaliste talentueux.
Voilà.
Et merci énormément. Merci à toi Philippe, en tout cas, de nous avoir fait vivre aussi ce mondial. Et
c'est un plaisir.
T'as ramené un vrai élan côté sport à cette radio. On t'en remercie énormément.
Eladji, bonnes vacances de Noël.
Merci, bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs et auditrices.
Et il y a quand même du foot pendant les fêtes, il faut le dire. Hein. On va jouer au football pour la première
fois
pendant
Manchester
les fêtes
City
de fin d'année.
Bientôt.
Non, mais même en France. Hein. Journée de championnat le 28 décembre et le 1er janvier.
Ça reprend.
Ouais. Pas de réveillon pour les footballeurs. Hein.
Pas de réveillon pour les footballeurs, mais bon, je pense.
On est dans le Boxing Day, là, cette fois-ci.
Voilà. Julien, merci en tout cas.
Bah, merci pour l'accueil, hein, c'était vraiment super. Voilà. Merci à mon Paris FM.
Voilà.
On a pris beaucoup de plaisir et puis, bon, ça va être dur de retourner au championnat. Hein.
Il y a Marseille qui m'attend, Julien, je te jure, j'ai déjà mal à la tête.
Bah, moi, mais en tant que supporter lyonnais, je pense que j'ai mal le
vivre. Philippe, il le sait déjà, moi, je suis le chroniqueur des grands événements du monde, championnat d'Europe, Ligue des Champions, le championnat. Je laisse ça à bout là, j'ai Hakim.
Non, mais pour finir,
la prochaine fois.
Allez les Bleus et vive le Roi Messi malgré tout. Hein.
Oui, bien sûr. Merci en tout cas. On finit
merci
avec la chanson fétiche.
Free from desire.
Voilà.
Non, mais
là, tu l'annonces pas. Là, tu l'annonces pas, Philippe.
C'est qui l'auteur,
Philippe? C'est Gala, c'est l'italienne. Voilà. Merci à Jason pour avoir une nouvelle fois de main de maître drivé cette émission à la technique. Et puis, on se retrouve donc le 9 janvier. Bonne fête de fin d'année, bonnes vacances. Merci pour tout. N'oubliez pas hein, les podcasts et puis
c'est
les
ça,
rediffs.
Écoutez
aussi,
les podcasts, les rediffs et on remettra sur Insta des capsules de cette émission
et
d'autres émissions de mon Paris
et
Sport.
Merci pour tout et une nouvelle fois, belle Coupe du Monde de foot. On s'est régalé. Salut.
C'était délicieux.
Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for.